se réveiller le lundi matin en se disant qu'on n'aurait pas dû programmer cette sonnerie-là, appuyer sur l'interrupteur de la lumière, se dire qu'on aurait dû changer l'ampoule, sortir du lit, se dire qu'on aurait dû mettre une couette plus chaude, refermer la couette sur personne, marcher sur le sol de la chambre, dur et froid, se demander si le lundi est la veille du mardi ou le lendemain du dimanche, faire couler de l'eau sur son corps sec. Les palpitations du cœur commencent à battre. La semaine commence. On sourit en repensant à des bons moments de ce week-end, on en espère d'autres le week-end prochain. Traverser l'hiver comme une promesse d'été, s'amuser d'un rien, éclater de rire parce qu'il fait froid, parce qu'il fait seul, parce qu'il fait loin, et puis se rapprocher de soi-même et partir. Avec Tito dans le rôle de Claude François. Bonne journée à tous.
Radio Nova.
5 ans, jour pour jour, après le discours du Bourget. Bonjour.
Non.
J'ai vu le regard.
Non,
bonjour.
On dit pas bonjour après avoir commencé à te
mettre. Ouais, c'est vrai, c'est trop tard. C'est trop tard.
Très, très fort.
Comment ?
Ça attaque très fort. Ben,
j'ai mon tiède-mère.
On a eu un sale week-end, mon grand.
Mon grand, tu peux pas.
Mais nous, okay, quand même.
J'ai mon tiède-mère, okay. Peut-être déjà bonjour.
Bonjour.
Voilà,
les amis. 5 ans, jour pour jour, après le discours du Bourget, les électeurs socialistes ou proches du PS ont présenté l'addition à Manuel Valls, donc hier. Benoît Hamon et Manuel Valls, ce sont les deux qualifiés pour le second tour de la primaire du PS dimanche prochain.
Ah, je ne sais pas, tant que Dominique Reynier m'en aura pas parlé d'ici 7h10, je ne serai pas sûr de tout.
Très bien. Benoît Hamon a recueilli 36% des voix, Manuel Valls 31%, Arnaud Montebourg qui est arrivé en troisième position avec 18% des suffrages a d'ores et déjà appelé à voter Benoît Hamon qui part donc avec un, on va le dire, un net avantage avant le second tour, d'autant que Vincent Peillon qui lui est arrivé en quatrième position avec près de 7% des voix n'a donné aucune consigne de vote. L'écologiste François de Rugy est arrivé lui cinquième, 4% des suffrages, il fera connaître sa décision dans la journée. Sixième avec 2%. Sylvia Pinel appelle à voter Manuel Valls, elle est la seule pour l'instant, tandis que Jean-Luc Benamias, qui est arrivé bon dernier avec 1% des voix, n'a toujours pas, je crois, donné de consigne de vote.
Non, mais il n'a pas voté pour lui-même.
Donc, on cherche celui qui a voté pour lui. À noter une participation très faible aux alentours de 1,2 million de votants. Enfin, on n'a pas de chiffre définitif. En fait, c'était cette nuit à 1h du matin. Ça va sans doute bouger un peu, mais pas des masses quand même. C'est nettement inférieur à la primaire de 2011, hein, où 2,7 millions d'électeurs s'étaient rendus aux urnes. Le débat de l'entre-deux-tours entre Benoît Hamon et Manuel Valls aura lieu mercredi soir.
Il y a une phrase qu'on disait sur un homme politique qui s'appelait Olivier Stirne, on disait « il ne représente que lui-même et encore pas tous les jours ».
Un important épisode de pollution aux particules fines sévit depuis hier à Lyon et Paris, mais pas que, hein, dans de très nombreuses régions. Résultat, la circulation différenciée mise en place ce lundi à Paris, selon la classification des vignettes critères. Hein, c'est une première pour cette nouvelle vignette. Tous les véhicules disposant de vignettes de classe 1 à 4 pourront circuler. Les autres devront trouver une autre solution pour se déplacer sous peine d'une amende de 22 €. Alors attention, parce que contrairement à ce qui s'est fait lors des derniers pics de pollution, les transports publics ne sont pas gratuits aujourd'hui. Ceci dit, il y a un forfait jour qui doit coûter 3,80 € si mes souvenirs sont bons. À Lyon, c'est plus compliqué. La vignette critère n'est pas encore obligatoire. Du coup, la préfecture a mis en place un double système de circulation alternée et différenciée en même temps.
Non, mais ne dites pas. Attends, vous faites peur aux gens, là.
Oui.
Attention.
Ils vont plus sortir,
moi,
les gens.
Je vois mon Atman, vous le dites, attention. Le type a regardé derrière lui ce qui se passait.
Tout à fait.
Attention, vous ne vous rendez pas compte du pouvoir des médias.
Mais je commence à avoir
Il a sa petite chair de poule.
Attention
à ne pas dire attention tout le temps.
Plusieurs milliers d'opposants à l'avortement ont défilé à Paris hier entre la place d'Enfer-Rochereau et les Invalides. Parmi les manifestants, Philippe de Villiers, le nombre d'IVG en France est d'un peu plus de 200 000 par an. Le taux de recours est quasiment stable depuis 2006. Pour son premier entretien officiel avec un dirigeant étranger depuis son investiture, Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien s'était félicité de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. En marge de cet entretien, les autorités israéliennes ont donné leur feu vert à la construction de 566 nouveaux logements dans trois quartiers de Jérusalem-Est. 24 Sahraouis dans le box des accusés au Maroc aujourd'hui. Ils sont jugés en appel. Le procès qui devait avoir lieu au mois de décembre avait été reporté en raison de l'absence d'un des prévenus. Cette affaire fait suite aux affrontements sanglants survenus en 2010 lors du démantèlement d'un campement dans le Sahara occidental. Plusieurs membres des forces de l'ordre marocaines avaient alors été tués. La Gambie a enfin tourné la page Yahya Jammeh, celui qui a régné sans partage pendant 22 ans sur le plus petit pays du continent africain et qui a refusé de reconnaître sa défaite lors de la présidentielle en décembre dernier, est parti en exil en Guinée ce week-end. 36 morts et une cinquantaine de blessés, c'est le bilan d'un nouvel accident de train en Inde ce week-end. Un train qui transportait 600 passagers a déraillé. L'Inde qui est quand même régulièrement confrontée à ce type de drame. La fin hier soir de la 21e journée de Ligue 1 de football. Lyon à domicile a battu Marseille 3-1. Un petit peu plus tôt, Saint-Etienne avait battu Angers 2-1 et Monaco battait Lorient 4-0. Au classement, Monaco est en tête devant Nice et le Paris Saint-Germain. Et puis on connaît l'intégralité des quarts de finale du mondial de handball. L'un des tableaux opposera la France à la Suède, le Qatar à la Slovénie. Dans l'autre tableau, la Hongrie qui a sorti le Danemark, c'était la grosse surprise du week-end, jouera la Norvège et l'Espagne sera opposée à la Croatie. Et voilà.
Oui, mais je suis pas, pardon, hein, je respecte votre travail, une chose admirable, mais votre façon de déplayer, d'énoncer les noms de pays européens, de pays frères comme le Danemark, la Slovénie, l'Espagne, je trouve qu'il y avait du mépris, je trouve pas ça bien.
Il y a eu du dédain. En
fait, ah, ouais. C'était pas mon type riparé, généreux,
France
ouvert,
France
d'accueil, terre
non.
d'accueil.
Terre
vous
d'accueil,
savez,
non.
Il y a une
sur
fraternité.
Les noms, non.
Alors après, on s'étonne que l'Europe ne se fasse pas, mais si déjà ici, à Nova, à 7h du matin, on dit Espagne, Slovénie, avec du Danemark, comme si ces consonnes vous gênaient.
On part mal.
Oui, c'est pas, moi, je le dis, j'ai plus envie. L'envie n'est plus là.
J'ai envie de me flageller.
Voilà. Tito, vous voulez faire votre météo à 7h ou elle serait plus écoutée à 7h30, il y a plus de monde? Vous êtes généreux, vous donnez dès 7h la météo de Tito.
Alors aujourd'hui, il va faire moins 5 et 5 à Orléans, Bourges et Clermont-Ferrand. Attention, accrochez-vous à La Rochelle, il va faire entre moins 4 et 8. À Brest, 2 et 8. Et à Perpignan, entre 5 et 8. Il y a des 8 partout aujourd'hui. À Biarritz, entre 7 et 8. Et à Grenoble, entre 0 et 4. Mais le pire, c'est à Aurillac, entre moins 5 et 6. Attention, la Corse, entre 11 et 15.
Merci maestro. JP Manova, vous voyez, c'est le service en plus, c'est d'annoncer l'artiste qui vient de chanter, parce qu'ici à Nova, ce n'est pas des disques qui passent, c'est des gens qui viennent.
Mais JP Manova, il y a un rapport avec Radio Nova ou pas?
C'est très brillant.
Bravo.
C'est parce qu'il est 7h11. Autour de cette table, la fine fleur, hein, c'est vraiment les grosses têtes du matin. Oui. Atmen Kelif, ça va?
Très bien.
Bon, Christophe,
comment lundi?
Ça fait 2 semaines que vous voulez me parler de votre BD sur Joséphine Baker.
Bah,
est-ce
oui.
que c'est le bon espace pour vous?
Ah bah moi c'est l'espace que vous me laissez, oui c'est...
Mais déjà vous venez de perdre du temps en répondant à cette phrase au lieu d'enchaîner.
Vous voulez que j'enchaîne sur Joséphine Baker?
Moi je n'y tiens pas plus que ça, mais c'est vous qui me harcelez, j'ai eu vos parents au téléphone.
Oui, ils ont appelé.
Pourquoi mon petit méné, vous avez quand même 57 ans, c'est quand même bizarre que vos parents...
Ben oui, mais ils s'occupent bien de moi.
Alors qu'est-ce que vous avez adoré sur Joséphine Baker?
Tout.
Il y a Thomas qui vous fait signe, Thomas qui est un vrai journaliste.
Vas-y.
Enchaîne,
enchaîne.
Il a envie de vous dire, mais
moi j'ai envie de prendre mon temps, voilà. Et combien de temps il nous reste d'émission? 1h30.
30 secondes.
Voilà. Alors non, mais parce que c'est des auteurs que j'aime bien, c'est Catel et Boquet qui avaient déjà sorti Kiki de Montparnasse et Olympe de Gouges, et cette fois ils mettent en lumière Joséphine Baker, pardon. Alors bien sûr, on a surtout en tête l'image de la danseuse exotique, et c'est justement ce qui m'a intéressé dans cette BD. C'est qu'en fait, on sort de cette image-là, on découvre une femme libre, la première star mondiale noire. Joséphine Baker a 20 ans quand elle débarque à Paris en 1925 et devient en une seule nuit la star de l'époque. Hein, elle attire à elle Picasso, Le Corbusier, Simenon, Cocteau, Colette. Et durant les années 30, sa notoriété devient mondiale. Voilà. On la connaît partout, en Argentine, en Égypte, en Allemagne. Et puis on découvre enfin la Joséphine Baker résistante. Ça, je ne le savais pas. Elle devient espionne pour la résistance, en fait, pour le général de Gaulle. Et elle ne s'arrêtera pas de s'engager jusqu'à la fin de la vie, de sa vie, puisqu'elle va se vouer à la lutte contre la ségrégation raciale, auprès de Martin Luther King, notamment. Voilà. Et elle va après fonder sa fameuse tribu arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'elle va adopter plein d'enfants de plein de nationalités différentes. Et puis la BD est vraiment très bien faite. À la fin, il y a une chronologie et une petite biographie de tous les hommes qui ont traversé sa vie. Voilà,
et c'est Alex Lutz qui va faire le biopic de Joséphine Baker.
Il y a un silence dessus. Après, oui, le
ouais,
silence.
Posez-vous des questions.
Alors c'est chez Casterman.
Voilà.
Christophe Méné.
Oui.
Depuis le début de l'année, vous êtes venu beaucoup. On a eu du plaisir à vous voir physiquement. Vous n'avez jamais autant entendu.
Oui. Trop peut-être.
Qu'est-ce qui s'est libéré en vous? Quelle porte vous avez ouvert?
Je sais pas, j'ai eu envie tout d'un coup d'exister.
Oui, d'exister, voilà. De vivre, de crier haut et fort. Je suis un être humain, je suis un cri, je suis un appel au secours ou une envie.
Oui, alors justement, j'avais autre chose à dire, c'est que d'ici 2020, tous les Quicks seront devenus des Burger King.
Pardon,
et je suis dégoûté.
Quoi?
Ouais, parce que moi, j'adore
c'est
le Giant.
Vous avez vu ça où?
Eh ben, j'ai vu ça dans le Parisien ce matin. C'est nul, Burger King, il y a toujours la queue, on peut jamais manger tranquillement.
Thomas Baumgartner, votre point de vue sur cette information?
Oui, j'ai vu le regard de Chris à l'instant qui me prenait à témoin. Oui. Sur cette question-là, je pense que 2020 n'est pas aujourd'hui et que la lutte peut continuer. Peut commencer déjà dès aujourd'hui.
C'est foutu, c'est racheté.
Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Hein.
Faut pas se laisser faire par la fatalité.
De quoi on va parler aujourd'hui, Thomas? Il y a plein de choses, plein d'invités.
Oui, tout à l'heure à 7h40, c'est-à-dire pas loin de 8h-20, on recevra Laurence Amama qui sort un livre, un roman chez Plomb intitulé Curte. Ou courte, je ne sais pas. En tout cas, c'est autour d'une figure du grunge dont il paraît qu'elle est connue.
Sur peut-être Cobain. Alors, on parlera de la prononciation du prénom, bien sûr. Mm-hmm. Il faut faire une heure là-dessus. Bien sûr, pas une heure.
Peut-être un appel à un monument, peut-être.
Oui, on va réveiller Marina Foyce.
Ah, bah voilà.
Il y a Aurélio qui va venir chanter ici.
C'est le live,
8h10. C'est assez chaud.
Je pourrais parler théâtre un petit peu, excusez-moi.
Oui, vous voulez parler de qui?
Un air de famille, voilà, oui. De la Macrée Jouée. Mais je vais juste parler un tout petit peu de Jackie Evanko. Vous savez qui c'est?
Non.
C'est la jeune fille qui a chanté pour l'investiture de Donald Trump.
Oui.
Une petite blonde qui a gagné American Got Talent parce qu'ils ont trouvé personne, en fait. Moi, ils m'auraient demandé, j'y serais allé. Hein, mais ils n'ont pas voulu, en fait. Voilà, ils ont demandé surtout à André
Abouchili. Il y a des très belles photos de vous en 42 en uniforme allemand en train de chanter.
J'étais un bobino.
Et vous avez eu cette phrase, il faut bien travailler, il faut manger.
Je voudrais mourir allemand. Pardon, français.
Tito, vous, à part jouer de la guitare, de temps en temps, vous découpez du jambon.
Le jambon
noir de Bigorre, vous en avez découpé ce week-end?
Oui, j'ai découpé du jambon ce week-end et chaque tranche mangée, un jour de vie gagné. Donc je vous encourage à goûter le noir de Bigorre.
Je
voulais ressentir, ça fait pas mal ma foi de marcher au pas de loi.
C'est abrutique.
Je voudrais mourir français.
Plus vieux et plus misogyne on a, mais c'est Trump. Professeur à sciences politiques, fin observateur du grand manège, du grand cirque politique, sans ironie aussi, avec beaucoup d'admiration, de respect pour nos institutions. Dominique Régnier nous fait la gentillesse de passer deux fois par semaine nous apprendre, nous commenter, nous aider à mieux comprendre. Dominique, c'est une très longue introduction, pardon. Il y a eu les primaires socialistes hier, Benoît Hamon devant Manuel Valls. Qu'est-ce que vous en tirez?
Ce qui est fascinant, Edouard Baird, c'est que j'ai le plaisir de venir une fois par semaine.
Oui, mais alors peut-être que
je vais écouter davantage.
Peut-être que vous venez deux fois, j'en sais
pas. Non, c'est un résultat qui a été jugé décevant en termes de participation. Moi, j'ai un sentiment un petit peu plus équilibré. La comparaison avec 2011 est une comparaison très exigeante. En 2011, c'était la première fois que des primaires étaient organisées. C'est le parti qui les a inventées ou introduites en France, le PS, qui les menait. Il y avait une forte mobilisation parce qu'il fallait battre Nicolas Sarkozy, ce qui sera fait en 2012. Donc il y avait des éléments qui ont pu expliquer que les socialistes étaient mobilisés à ce moment-là, 2 700 000 personnes. Là, c'est 1,7 million, peut-être un peu plus. C'est pas terrible, mais c'est pas si mal que ça parce qu'ils sont dans les plus grandes difficultés, comme chacun le sait. Ce qui est frappant, c'est de voir un résultat qui était à la fin de la campagne plutôt attendu. En réalité, pas au départ, oui, mais à la fin plutôt attendu. Benoît Hamon en tête devant Manuel Valls. C'est assez cruel parce que ce sont ces deux gauches dont Manuel Valls a dit qu'elles étaient irréconciliables. Et il l'a dit lui-même, c'est la formule qu'il a employée, elle est devenue célèbre. Elle est peut-être vraie d'ailleurs au fond. Hein. Et là, désormais, ce que les électeurs socialistes ou de la gauche vont devoir trancher dimanche prochain, c'est quelle est la gauche qu'ils veulent pour mener le PS, sinon à la victoire présidentielle, parce que ça paraît compliqué, du moins pour la reconstruction d'une opposition démocratique de gauche après 2017, selon le résultat. Donc c'est une situation particulièrement dure, je trouve, pour Manuel Valls.
Alors, ça existe encore l'idée d'une gauche utopiste et d'une gauche réaliste? Comment est-ce qu'on pourrait... Une gauche sociolibérale, social-démocrate et une gauche un peu... Comment on la qualifierait, la gauche Benoît Hamon?
La gauche de Benoît Hamon, c'est une gauche qui ne veut pas, résolument, qui ne veut pas limiter son point de vue, c'est-à-dire lui donner des limites en raison de contraintes budgétaires ou de l'accord nécessaire des Européens. Il ne veut pas connaître, c'est un discours qui ne veut pas connaître ces obstacles à la volonté et à ce que l'on peut souhaiter. C'est tout à fait frappant, ça. C'est-à-dire, c'était vraiment l'idée qu'on peut retrouver, d'ailleurs, y compris chez Jean-Luc Mélenchon, voire, mais je ne fais pas de comparaison, voire chez Marine Le Pen, au sens où ce que l'on veut en politique doit pouvoir se réaliser. Ne me racontez pas d'histoire, ce ne sont pas des obstacles. Si nous le voulons, nous le pouvons. Et là, cette idée de limiter par la contrainte budgétaire, tout simplement, c'est ce que lui a dit hier soir Manuel Valls, la production d'idées est profondément rejetée. C'est une gauche radicale de ce point de vue-là, non pas au sens où il est révolutionnaire, mais au sens où le réel, la réalité des choses ne l'arrête pas dans la production de ses propositions.
Mais est-ce que le vote dans les démocraties aujourd'hui, comme aux États-Unis, n'est pas en train de nous dire, si vous ne nous faites pas rêver, si vous n'allez pas dans les utopies d'un côté ou de l'autre, on va voter d'une façon qui va vous choquer beaucoup plus. Est-ce que la démocratie dans le raisonnable n'est pas en train de s'effriter un peu ?
Si, c'est une des grandes questions, ça, hein, Edouard Baird, vraiment. Et c'est au point que, alors je ne veux pas lancer comme ça une phrase qui ferait frémir, mais on peut se demander aujourd'hui, en observant la démocratie, si ça n'est pas une phase qui annoncerait un terme à l'histoire de cette forme politique. Il n'y a aucune raison de penser que la démocratie est une forme qui va durer toujours. Aucune raison. Hein. On peut trouver que c'est un bon régime, je le pense de manière, je dirais, assez ordinaire, mais je le pense profondément. Mais ça ne signifie pas pour autant que ce régime va durer. Et là, on arrive à des difficultés, des contradictions, qui sont celles que vous venez de souligner. Il y a une réalité économique, il y a des réalités physiques dans le monde dans lequel nous sommes. Et nous ne savons plus aujourd'hui produire de discours qui font rêver, qui mobilisent. Ou alors nous avons, c'est ce que vous disiez à l'instant, ou alors nous avons des discours qui font appel à du sentiment, à de l'émotion, à de la passion, mais négative. La passion revient, le sentiment revient, mais par la voie négative, rejeter une partie de la population, cliver, se confronter, remettre en question des libertés qui ont été acquises. Cela peut mobiliser paradoxalement.
Est-ce que, par exemple, vous ou d'autres gens dans ces milieux commencent à réfléchir à une société post-démocratique qui ne soit pas forcément inquiétante ?
Alors ça, c'est le grand défi. Je pense qu'il faut qu'on s'y attelle. Moi, c'est un sujet sur lequel je travaille, mais je pense qu'il faut s'atteler et ça ne peut être que l'affaire des citoyens, chez eux, ensemble, ça. Mais c'est pas parce qu'il y a des experts qui vont travailler là-dessus que ce sera la réponse. Mais il faut s'atteler à réfléchir à une société qui nous irait bien, dans laquelle nous serions heureux, et qui ne serait pas exactement celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il faut se hâter parce que il peut se mettre en place une société post-démocratique qui n'aurait pas nos faveurs, mais dans le post-démocratisme, il y a l'autoritarisme. Et là, que vous soyez d'accord ou pas, ça n'a pas d'importance, par définition.
Merci Dominique. Dominique, on parlait la semaine dernière du vote blanc, du vote nul. Vous avez donné des exemples de votes qui étaient nuls. C'est si on écrit sur son bulletin « Vas-y champion » ou...
Voilà. Et hier pendant le dépouillement, j'insiste sur ce mot, dans un bureau de vote pour la primaire socialiste, il y a eu un bulletin nul qui a été photographié, que je partage avec vous à l'antenne. Je vous le laisserai d'ailleurs, si vous le souhaitez, pour votre site. Pas trop chiant, le dépouillage, point d'interrogation. Et entre parenthèses, je vote pas, je prends juste de vos nouvelles.
Oh, joli. Je vous remercie. Magnifique. Effectivement, ça n'a été comptabilisé pour personne, peut-être.
Pour personne. Pour Jean-Luc. Mais on ne dit pas dépouillage, on dit dépouillement.
C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu. C'est pour ça que ça n'a pas été compté. Merci Dominique Rénier.
Merci Edouard Baird.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Ah, il fait une chaleur dans cette émission.
Je ne savais pas du tout que ça allait être maintenant. Je ne vous cache pas que je m'étais lancé dans une pomme.
Qu'est-ce que vous mangez là ?
Non, je n'avais pas envie de mentir ce matin.
Vous croquez une pomme ?
Je me suis lancé dans le croquage de pommes de cet homme.
Mais mange ta pomme tranquillement.
Chirac. La pomme.
À l'époque, c'était...
Ah bah oui, quand même.
Atmen, ne croyez pas que le fait que le micro soit ouvert soit pour vous une ouverture sur tous les possibles.
Ah pardon.
Vous voyez, la connerie et l'intelligence ne sont pas exactement la même chose.
Comment ça ?
Vous avez des moments politiques, vous avez des envolées, les gens vous admirent. Et de temps en temps, vous avez des moments où vous vous abandonnez dans le micro. On part dans la rue avec la soupe.
Oui.
Non, mon petit chéri.
Oui.
C'est ton baba.
C'est
ton baba mère. Alors, vous m'aviez dit de dire ça. Jack Souvent.
Zurich, Dublin, Stockholm, Varsovie, Singapour, Taipei. Le vol de Taipei, c'est donc Hall 1. Les portes d'embarquement, c'est 50-58.
À quelle station de métro vous êtes ?
Et il est à l'heure. On est, bah oui, vous avez compris, on est à l'aéroport. Je suis avec, je sais pas votre prénom. Mon prénom, c'est Sylvain. Oui. Sylvain, je viens juste de le rencontrer. Il était devant les tableaux d'affichage avec moi. Vous allez où, Sylvain, son chemin? Il va à Munich, Sylvain. C'est le hall numéro 4, et mon avion est à l'heure.
Ça, Sylvain, bonjour. Oui. Quel est bonjour. Ce phénomène qu'on rencontre le matin tôt, des gens qui parlent d'eux à la troisième personne? On en a de plus en plus.
Mais comment puis-je le savoir, mon pauvre?
Mais parce que vous m'avez dit Sylvain, Sylvain par à Munich.
Oh ben moi, je réplique ce que dit votre collègue. Hein, je ne fais que...
Ah, d'accord. Je comprends.
Un collègue confrère, d'ailleurs, je ne sais pas.
Vous ne vous êtes pas approprié. Mais... Non, c'est mon inféodé. Et dites-moi, vous partez à Munich, c'est un vol plaisir, un vol affaires,
Pas du tout, c'est un vol affaires. C'est un vol affaires, mais en classe éco.
Classe éco. Est-ce que le contraire existe?
C'est-à-dire
un séjour économique en classe affaires, je ne sais pas. Je cherche avec vous la clé de cette matinée, je cherche la vérité, je cherche
la
lumière.
Pour la première fois, ça va être un juste équilibre, alors.
Est-ce que parfois en avion, il vous est arrivé lors d'un voyage d'affaires de voir une lumière tout à coup, le fait d'être loin du sol, d'être loin de la réalité?
Alors c'était la lumière qui me permettait d'appeler l'hôtesse, oui.
Oui, moi je parlais peut-être d'une lumière intérieure, d'une sorte de soleil qui vous envahit, de dire je suis un homme libre, ma vie c'est de travailler entre Paris et Munich à 1000
kilomètres. Alors je ne suis pas sûr que travailler entre Paris et Munich, c'est vraiment la définition d'un homme libre. J'aimerais beaucoup un vol plaisir où je verrais une belle lumière qui me permettrait de me dire je suis quelqu'un de libre, ma vie est formidable. Malheureusement, ma vie consiste à aller travailler à Munich à 7h30 du matin.
Vous croyez en Dieu, Sylvain?
Oh, je crois en beaucoup de choses.
Est-ce que dans des moments où il y a beaucoup, beaucoup de trous d'air, votre croyance en Dieu augmente?
Ah, elle augmente, oui, de façon exponentielle. Plus il y a trous d'air, plus je crois en beaucoup de choses.
Vous n'êtes pas allé prier à la petite chapelle du coin, là?
Non, pas encore. Je vais peut-être aller faire un petit tour.
Ah oui, tous les monothéismes sont représentés dans les aéroports, hein. On peut aller prier.
Oh, non seulement les monothéismes, mais... Et oui, il y a également tout un tas, il y a l'animisme qui est bien.
Il y a des chapelles animistes à Orly avec des
grilles. Oh, il y en a énormément.
Le dieu chariot à roulettes.
Le dieu valise, c'est compliqué. Ouais. C'est pas une vie tout ça, je vous le dis.
J'aimerais
bien être à votre place, mon Edouard. Hein.
C'est vrai?
Ah oui.
Bah venez.
Oh bah j'adorerais.
Mais qu'est-ce qui va pas ce matin, Sylvain?
Non, tout va bien.
C'est pas mal quand même.
Je suis quand même très très bien.
Beaucoup de gens vont travailler en métro, aller travailler en avion, on en rêve un petit peu l'idée.
Alors, je suis en habitué de la ligne 13, là je vous cache pas que le vol pour Munich sera beaucoup plus confortable que la ligne 13.
C'est Roissy ou Orly?
C'est Roissy.
Est-ce que vous voyez, quitte à rentrer dans le lieu commun, une orgie de saucisses à 12h30 pour vous à Munich?
Oh, ça va commencer par une très belle lumière intérieure, puis une orgie de saucisses.
Sylvain, est-ce que vous portez un costume, cravate? Avez-vous un attaché-caisse?
Absolument pas. J'ai un jean, des baskets et un sac à dos.
On est sur des baskets business ou des baskets plaisir?
Ah, pas du tout, non. De la bonne grosse Reebok blanche.
C'est quoi votre rendez-vous, Sylvain?
Oh, ben, je travaille dans le web.
Ouais.
Je travaille pour une boîte qui s'appelle Amazon.
Ah, ben, c'est le truc. Oui, je vois. C'est la petite. Ils en ont. Il y en a un ou deux.
Voilà. 230 Chinois qui passent derrière nous, là.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un énorme...
Allez enquêter. Sylvain, vous êtes engagé. Allez voir le groupe chinois, demandez-leur ce qu'ils font.
Je ne parle pas français.
Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes dans des stéréotypes.
Absolument pas, je les entends.
C'est pas possible.
Je les entends parler
vous en français. Non, un groupe de Chinois n'est pas un sketch de Kev Adams. Il y a des Chinois qui parlent français, il y a des
Non. Laissons Kev Adams en dehors de ça, il n'a rien à voir.
valise rose, jaune, violette avec des autocollants, valise carton, sac de sport, sac Apple, sac Vuitton.
Ouais, ce sont vraisemblablement des contrefaçons.
Ils sont passés très vite, la température extérieure est de moins 3 degrés.
Sylvain, je vous souhaite une très bonne journée à Munich.
Merci
et n'oubliez pas ces mots de Heinrich Heine. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin.
Magnifique.
Ah, je suis épuisé. Radio Nova. Bonjour Titi Paré.
Bonjour
vous
les
amis. Vous
aimez
bien qu'on vous appelle Titi Paré?
Ça me gêne pas. En général, c'est les enfants quand même. Hein.
Ouais. Ah bah alors tiens, Christophe.
Moi, Titi. Moi j'aime bien Titi Paré. Ça fait Titi et Gros Minet, j'aime bien.
Benoît Hamon et Manuel Valls, donc ce sont les deux qualifiés pour le second tour de la primaire du PS dimanche prochain. Benoît Hamon a recueilli 36% des voix. Manuel Valls, 31%. Arnaud Montebourg, qui est arrivé en troisième position avec 18% des suffrages, a d'ores et déjà appelé à voter Benoît Hamon. Vincent Payon, lui, est arrivé en quatrième position avec près de 7%. Il n'a pas donné de consigne de vote. L'écologiste François Durugy, qui est arrivé cinquième avec 4% des suffrages,
suffrages fera connaître sa décision tout à l'heure dans la journée. Sixième avec 2%, Sylvia Pinel appelle à voter Manuel Valls. Elle est pour l'instant la seule. Tandis que Jean-Luc Benamias, lui, qui est arrivé bon dernier avec 1% des voix, n'a toujours pas donné de consigne de vote. On notera une participation faible, hein, aux alentours de... En tout cas, c'était le chiffre donné à 1h du matin. Aux alentours de 1,2 million de votants. Ça va sans doute bouger. Il n'y a pas de chiffre définitif pour l'instant. Mais ça semble être quand même nettement inférieur à la primaire de 2011 où 2,7 millions d'électeurs s'étaient rendus aux urnes. Et puis le débat d'entre les deux tours, entre Benoît Hamon et Manuel Valls, aura lieu mercredi soir. Plusieurs milliers d'opposants à l'avortement ont défilé à Paris hier, entre la place d'Enfer Rochereau et les Invalides. Parmi les manifestants, Philippe de Villiers. Le nombre d'IVG en France est d'un peu plus de 200 000 par an. Le taux de recours est quasiment stable, hein, depuis 2006. Les émissaires du président Bachar al-Assad et les rebelles syriens vont se rencontrer et discuter aujourd'hui à Astana, capitale du Kazakhstan. Il s'agit du premier round de négociations directes depuis le début de la guerre en Syrie. Donc c'est un moment assez important. Les discussions devraient se concentrer sur la consolidation du fragile cessez-le-feu signé le 30 décembre. Il s'agit aussi négociations d'Astana qui doivent aussi préparer les prochaines discussions de paix sous l'égide de l'ONU. Elles auront lieu le 8 février, donc dans pas longtemps, à Genève. Pour son premier entretien officiel avec un dirigeant étranger depuis son investiture, Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien s'est félicité de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Un important épisode de pollution en particules fines sévit depuis hier à Lyon et Paris. Notamment, beaucoup de régions sont concernées en fait. Résultat, la circulation différenciée est mise en place ce lundi à Paris selon la classification des vignettes critères. C'est une première donc pour cette nouvelle vignette. Tous les véhicules disposant de vignettes de classe 1 à 4 peuvent circuler. Les autres doivent trouver une autre solution pour se déplacer sous peine d'une amende de 22 euros. Alors attention, contrairement à ce qui s'est fait lors des derniers pics de pollution, les transports publics ne sont pas gratuits. Ceci dit, il y a un forfait jour à 3,80 €. Et puis à Lyon, la vignette critère n'est pas encore obligatoire. Du coup, c'est un petit peu plus le bordel. La préfecture a mis en place un double système de circulation alternée et différenciée dans lequel je serais bien incapable de vous, dont je serais bien incapable de vous expliquer les détails.
Là, c'est le mot bordel, j'ai vu mon admin un petit il a sourcillé, il a
un petit peu chaud. Voilà, c'est une France
il
qui
est allé sur Radio Courtoisie écouter le journal.
Et on ne dit pas que des conneries sur Radio Courtoisie.
La fin de la 21e journée de Ligue 1 de football. Lyon à domicile a battu Marseille 3-1. Un petit peu plus tôt, Saint-Etienne battait Angers 2-1 et Monaco battait Lorient 4-0. Classement, Monaco est en tête devant Nice et le Paris Saint-Germain. Les larmes ont coulé des deux côtés au coup de sifflet final. C'est toujours du foot, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations hier entre le Gabon et le Cameroun. Alors pas pour les mêmes raisons. Le Gabon, c'est tout simplement parce que c'est le pays qui organise cette CAN et il est éliminé. Il a fini troisième du groupe A, c'est terminé pour lui. En revanche, le Burkina, lui, il assure puisqu'ils ont battu la Guinée-Bissau 2-0. Le Burkina et la Guinée sont qualifiés pour les quarts de finale. Et puis on connaît l'intégralité des quarts de finale du Mondial de handball. L'un des tableaux opposera la France à la Suède, le Qatar à la Slovénie. Dans l'autre tableau, la Hongrie jouera la Norvège et l'Espagne sera opposée à la Croatie.
Comment vous vous êtes trouvé pendant le journal?
Je ne trouvais pas trop mauvais.
Ah oui, non, c'était bien. Ah non, moi j'ai trouvé. Il y a Christophe. Je trouve que c'était bien parce que c'était clair. C'était à la fois, j'avais l'impression de voyager. Il y avait du sport. Il y avait...
À un moment donné, j'ai eu du mal à respirer
oui.
un peu. Mais j'ai pas...
Oui, mais tu as été bien parce qu'il y avait une très belle émotion sur l'international. Sur la politique, t'as été un peu... tu venais d'arriver, tu ne sentais pas ton
oui,
public.
C'est ça, c'était un peu léger. Tu sais ce qui manquait, il faut bien reconnaître.
Sur le foot, je l'ai trouvé mignon.
Quoi ?
Sur le foot, je l'ai trouvé mignon.
Très humain, très proche de la CAN, très franco-africain.
Voilà. C'est comme mon père me disait une histoire.
Après la météo, je l'ai trouvé très précise.
Ah non, justement, c'est ça qui manquait.
Trois chiffres
à retenir, Tito, aujourd'hui.
8.
Attention, accrochez-vous.
Trois villes.
Orléans, Bourges et Clermont-Ferrand. Eh bien, c'est pareil, il fait moins 5 et puis 5. À Brest, entre 2 et 8. Strasbourg, entre moins 7 et moins 1. À Metz, entre moins 5 et 1. Et dans le sud, à Biarritz, 7 et 8. Perpignan, 5 et 8. À Toulouse, 3 et 8. À Nîmes, 7 et 11. Et dans le côté de Nîmes et de Ajaccio, entre 11 et 15. Ça y est, là, 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 ça y est, là, là, là,
là. A tout de suite, on va parler de Kurt Cobain.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Kurt Cobain.
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 Cobain. Cobain. Kurt. Kurt Cobain.
Kurt.
Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, Kurt est le nom du formidable livre de Laurent David Samama aux éditions Plomb. Bonjour Laurent David.
Bonjour Edouard Baird.
Laurent David, j'ai vu mon Thomas Baumgartner enchanté ce matin. Il m'a dit, j'ai passé le week-end avec ce roman vrai, je ne sais pas comment on le définit, sur Kurt Cobain. Pendant ce temps-là, au Café du Commerce, on parle de Kurt Cobain.
Oui, ouais, c'est sa femme qui l'a tué.
Voilà, non, merci. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous avez aimé, Thomas, dans le livre de Laurent David?
Bah, on a l'impression à lire ce roman qui est paru il y a 2-3 jours seulement que Laurent David Samama est à la fois dans la position du fan, il dit même « je » à la place de cette idole qui est Kurt Cobain, et en même temps, il y a un roman, il y a un dispositif littéraire. On est plein cadre avec Kurt Cobain, Laurent David Samama. C'est vraiment ça, ce livre?
Bien sûr, les faits sont là. On suit Cobain. Donc on est à la fin de sa vie, dans un espace-temps défini vaguement, mais on sait qu'on est dans des semaines ou dans quelques jours avant la fin de sa vie. Et Cobain parle, se confie devant une caméra.
Il se filme lui-même.
On est à l'époque où les clips l'ont fait un petit peu émerger, on fait de lui une star, l'image le trouble. Et c'est l'image qui le perd aussi. Il est très mal de se voir partout à la télé dès qu'il allume... des chaînes de clips, il est très très mal à cause de ça et il veut laisser une sorte de trace de ce qu'il était, pas de ce que les gens ont pensé qu'il était, parce qu'on a lu de ses chansons, ce qu'on a cru voir, parce qu'on a vu dans ses clips, même si ses clips racontent assez bien son escalade vers la mort et un truc assez sombre, glauque, sombre, cynique, assez grunge en fin de compte.
Mais il est obnubilé par ça, par la postérité, par la trace qu'il ne veut pas laisser, qu'il aimerait laisser. Il ne veut pas que ce qu'il écrit, ce qu'il chante soit manipulé par d'autres après. Et on est en plein dans ce... à la fois une forme de paradoxe et dans son malaise profond.
Oui, bien sûr. Il meurt à un âge, il rentre dans un club... Morrison, Hendrix, deux personnalités qui meurent jeunes et qui vont créer un mythe autour de leur personne.
Le club des 27.
C'est ça.
Le club des 27
dont, ans. Dont je parle dans le livre, parce que c'est un truc qui lui, a priori, qui le trouble, qui le tient à cœur. Et on pense qu'il fait exprès de rentrer dans ce club-là. S'il meurt à cet âge-là, alors c'est la drogue et il force. Mais est-ce qu'il ne force pas aussi pour rejoindre ce club-là?
Alors, on parle de Morrison, des années 70. Alors justement, les années 90, Nirvana, Kurt Cobain, le grunge, qu'est-ce que ça représentait pour vous, l'impression? Et qu'est-ce qu'il en reste de tout ça? C'était le symbole de quoi?
Moi, j'avais à cœur d'écrire sur Cobain, parce qu'à mon avis, ce qu'il raconte et cette ère post-punk, donc grunge, correspond bien à notre époque, à nous. Un truc assez sombre, où ce qu'il annonçait et se vérifie. Moi ça me parle, je suis né en 87, je suis un enfant des années 90, Cobain ça m'a accompagné, il est mort en 94, mais voilà, il y a eu une suite, on l'entend beaucoup, et c'est la bande son de notre époque à nous, et moi j'avais à cœur de mettre des mots sur du grunge et de faire en sorte, de voir si le grunge pouvait être une matière qu'on façonne avec des mots, est-ce que ça peut rentrer dans le cadre d'un livre, d'un roman, est-ce que ça se fait, on l'a fait avec le rock des années 60 et 70.
Donc votre style vous-même est inspiré, serait comme c'est écrit comme si c'était accompagné par de la musique grunge.
Ouais, c'est nerveux, cynique. Ouais. Alors bon, c'est dur de parler de sa propre plume, mais ouais, c'est un peu angoissant, c'est sombre.
Un peu foutraque par moment, vraiment. Ouais. Mais en même temps, c'est ça il y a l'enjeu, c'est-à-dire qu'il faut d'une certaine manière structurer ce que c'est que le grunge. Il faut écrire 200 pages sur le grunge en plus en disant je à la place de Kurt Cobain, c'est quand même un sacré défi. Et puis en même temps, il faut rester dans quelque chose qui ne voulait pas être trop structuré.
Ouais. Le but, c'était un enchaînement de chapitres assez rapide. Mm-hmm. Le grunge, c'est une musique qui se joue vite et fort. C'est du post-punk. Donc, c'est jouer le plus rapidement possible, le plus fort. Et il y a des notes en dessous. Quand on creuse, il y a des paroles, il y a une poésie grunge-punk. Mais oui, c'est allé vite. Donc, il y a un enchaînement de chapitres. Certains très, très rapides, très efficaces. D'autres qui laissent plus la place à des divagations. Il y a aussi de la drogue hein, chez Cobain, donc on sent ça. Il y a des montées, descentes, il y a des phases.
Excitation.
Il joue avec
cette caméra qu'il a en face de lui.
Alors il y a la posture de la rockstar, parce qu'on disait que par exemple les stars du punk étaient partagées entre l'idée d'être une rockstar et d'être anti-système, ce qui est un petit peu contradictoire. C'est quoi une star des années grunge? C'était quelqu'un, c'est quoi comme composition esthétique ou... C'est un truc un peu romantique, un peu désespéré.
Ouais, c'est quoi romantique très, très fortement. C'est, on a l'impression de voir du, un auteur romantique. C'est, comment vous dire, Cobain, oui, c'est quelqu'un qui refuse les gens qui se goinfrent et qui fuit les gens qui se goinfrent. C'est son mot. Mmh. Il fuit ça. Donc, c'est les managers, les gens qui font de la prod. Mais c'est pas que les sous, l'argent, c'est aussi sur le fond. Cobain, il est féministe, il se dit gay, il dit, il tag quand il est jeune, God is gay, il se fait passer pour un gay, on ne sait pas s'il l'est ou pas, mais ça importe peu. Il est pour, il est contre, il ne choisit pas de parti, il a des paroles très très engagées, donc il y va à fond, c'est les sentiments qui priment.
On est prêt pour deux, trois phrases de Nirvana ou de Cobain qui vous ont marqué, vous, dans ces chansons?
Alors, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est viens comme tu es, comme as you are, qui a été repris ensuite par McDo et par plein de trucs. C'est revenu et c'est ça qui est fou et qui est triste dans le grunge, c'est que la mode de Cobain, la façon dont il était sur scène avec des gilets, des vieux gilets, des jeans troués, des trucs un peu crades et un peu glauques, c'est revenu. On a vu ça ensuite. En mode très peu de temps après, ça a été repris et c'est la preuve de ce qu'il dit lui, c'est que le capitalisme au sens large recrache tout, reprend tout, le recrache et le reprend tout à son compte.
L'antisystème devient un système.
Ouais.
Laurence Amama, votre livre Kurt est paru la veille de l'investiture de Donald Trump. Ouais. C'est un hasard, mais comme par hasard, le grunge commencerait à revenir.
Moi, je crois très fort à un retour du grunge, du punk, et on sait très bien que sous Trump, il va y avoir de bons disques de rock, de bons disques de rap, et c'est très bien.
Café du commerce, oui.
Il se lavait pas beaucoup quand même.
Voilà, très bien, merci beaucoup.
On a pas parlé de Mike Brandt, voilà. Qui fait partie du club.
Le livre de David Samama, Kurt, et chez Plomb. Merci. Et vous êtes aussi un spécialiste des restaurants tunisiens.
Oui, c'est ma deuxième passion, qui ne va pas du tout avec Kurt. Parce que Kurt, moins Kurt mange, plus il meurt. Moi, plus je mange, plus je vis. Donc,
une adresse tout de suite.
Douyeb, moi j'aime bien. Douyeb à Paris.
C'est
dans le centre de Paris, à côté des Folies Bergères.
Douyeb.
C'est un petit boui-boui, mais je le recommande. C'est pas très cher et c'est bon.
On va aller googler tout ça. Merci, messieurs.
Oui. 7h.
Non, je veux dire, il faut faire un bouquin sur Enrico si vous aimez la musique tunisienne. Enfin,
plus près de toi. 7h, 9h.
Édouard Baird, 7h, 9h. Oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Allons. Il y a 7h53, Marina Foy, ça dépend si elle tourne ou pas, est-ce qu'elle est dans son lit, est-ce qu'elle est à une salle de maquillage, de tournage, on va le savoir.
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non?
Réveillons un monument national.
Après des études brillantes au cours Florent sous la férule d'Isabelle Nanty et des débuts prometteurs dans les Robins des Bois en 1953, Marina Foy a alterné les rôles graves et légers, entrant au panthéon de nos actrices préférées. Bonjour Marina.
Bonjour.
Marina, est-ce que je vous réveille vraiment?
Non. Je me suis réveillée à 7h07.
Ouais.
J'ai regardé pour être précise pour vous.
Néanmoins,
naturellement.
Néanmoins, Marina, j'entends une voix de lit. Est-ce à dire que vous, depuis 47 minutes, vous êtes dans votre lit?
Non, pas du tout. Parce qu'il y avait quelqu'un dedans.
Oui.
Donc je l'ai laissé tranquille. Et je me suis dirigée vers ma cuisine où j'ai bu des cafés, plusieurs litres.
Marina, cette personne qui est dans votre lit... Est-ce une personne qui s'y cache, qui est recherchée? Est-ce quelqu'un à qui vous avez offert une place de votre lit pour lui
Alors,
tenir chaud?
Alors, je ne peux pas vous dire, je le connais mal.
Oui.
Peut-être qu'il est recherché.
Alors, vous le connaissiez peut-être mal hier
police.
Soir? Oui. Mais est-ce que ce matin, vous le connaissez mieux?
Oh ben non.
Non.
Je ne sais pas. Non, je ne pense pas qu'il soit recherché. Bon. Il m'a l'air très...
Il a l'air bien. Marina, beaucoup de gens s'interrogent sur le réveil des comédiennes. Je voudrais savoir qui se réveille en premier, la femme, la comédienne, la maman. Oui.
C'est toujours l'actrice, parce qu'elle est très ambitieuse, elle veut gagner de l'argent.
Oui.
Donc c'est la première levée. La maman, elle n'a pas du tout envie de se lever, parce qu'elle trouve que l'école est beaucoup trop tôt.
Oui. Donc l'actrice motive la maman. L'actrice dit, ma grande, va falloir aller chercher les
soucis. Va falloir appeler ton agent. Oui. Envoie une lettre à un metteur en scène, appelle une maison, voir s'ils n'ont pas un contrat beauté qui traîne. Oui.
Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment des actrices qui appellent leur agent tous les matins en disant qu'est-ce qu'il y a ce matin, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'humeur du jour, quelle est l'odeur, qu'est-ce qui marche ou...
Non. Non, mais moi, alors là, je vais être très sincère.
Oui.
Pas tous les matins, mais j'ai très souvent un truc à dire à mon agent. Mais qui n'est pas forcément... Je ne demande pas l'humeur du jour, mais moi, j'ai mes humeurs. Et souvent, il faut que j'en parle.
Alors, c'est, vous l'engueulez parfois le matin tôt?
Non.
Non.
Non, je ne l'engueule pas. Mais moi, j'ai toujours des trucs à dire. Ceci dit, il n'y a pas qu'elle que j'appelle tous les matins. Alors... J'envoie également beaucoup de textos, pas vous?
Oui, mais le problème, moi, j'ai des choses à dire, mais moi, j'ai trouvé une façon pour les faire entendre, c'est la radio, c'est ça. On est beaucoup à avoir des choses à dire, on a peu de gens pour nous écouter.
Oui.
Comment vous faites-vous?
Et on ne peut pas tous avoir un 7-9.
Non, mais vous pourriez faire votre petite radio. Moi, au début, avec deux pots de yaourt, une ficelle, on peut tout à coup bricoler quelque chose, même dans les meubles.
Et puis, j'ai des enfants que je peux forcer à m'écouter.
Oui, ça sert aussi à ça, les enfants.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un petit rituel chez vous, Marina? Est-ce que c'est vous qui dites les enfants, on s'habille, on se lave? Enfin, peut-être dans l'autre ordre, on se lave, on s'habille, ou comment ça se passe?
En fait, on a instauré le un matin sur deux, parce que c'est vraiment une épreuve de se lever tôt. Donc un matin sur deux, oui, c'est moi qui dis tout ça. Mais mes enfants, ils tardent toujours. Là, ils ne sont pas encore levés, quoi. Et il y a école à 8h30.
J'imagine que l'autre matin, c'est la personne qu'on appelle le papa,
oui,
dans le cercle familial, hein, qui est la version barbue de la maman. Est-ce que vos enfants, vous avez l'impression, préfèrent le jour papa ou le jour maman dans le réveil?
Alors là, vous me posez la question... vous leur poserez la question, est-ce que tu préfères ton papa ou ta maman?
Non, je ne me permettrai pas ça. Ah bon. Est-ce qu'ils préfèrent être réveillés? Est-ce qu'il y a un réveil qui est plus doux que l'autre? Vous avez l'impression...
Oh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de douceur dans cette maison. Surtout au moment du réveil.
Marina,
oui,
c'est des aveux qui vous coûtent et qui vous honorent, parce que c'est beau, l'impudeur aussi, c'est de la générosité.
Oui.
L'exhibitionnisme est une générosité.
Oui.
Marina, est-ce que...
Ça, c'est une phrase dont je me souviendrai parce qu'elle m'arrange. Ouais.
Je vous remercie. Je voudrais qu'on passe du stade tenue de nuit au stade tenue de jour.
Parce
que j'imagine que vous n'allez pas passer votre journée dans vos vêtements de nuit.
Non.
Donc, on passe par la salle de bain ou parfois on n'a pas le temps? Comment ça se passe?
Ah bon, non, quand même, ah oui. Ah oui, propreté, quand... hygiène.
Hygiène.
On vit en société. Non, mais Edouard, il y a des impasses qu'on ne peut pas faire.
C'est pour les autres.
Ducal.
Oui.
Bien entendu, estime de soi égale nettoyage corporel. Mais non, ça c'est une impasse que je ne fais pas.
Miroir, non. Bonjour dans le miroir, sourire dans le miroir, tiens c'est toi, quelle heureuse retrouvaille.
Oui, joie, quel visage aimé.
Oui.
Oui, beaucoup de satisfaction au niveau de mon visage, énorme.
Maquillage du jour qui n'est pas celui du soir ou très léger?
Ah ouais, un peu de maquillage quand même. Ah ben ça c'est pareil, c'est une question de vivre ensemble.
Oui.
On ne peut pas imposer n'importe quoi aux autres dans la rue le matin.
Non.
Non.
Et est-ce que, par exemple, vous avez évoqué la présence d'un mari dans la maison, est-ce que lui-même a, comme beaucoup d'hommes aujourd'hui, ses produits de beauté qui ne sont pas les vôtres?
Alors, je ne préfère pas le savoir, parce que moi, il y a un endroit où je suis assez réac, c'est ça. C'est-à-dire qu'un homme qui s'épile, qui se met des crèmes de jour et qui va se faire masser, si en plus il lit des BD, non, ça ne me va pas.
Ouais. Et des jeux vidéo avec ses potes, quoi, oui,
voilà.
Sur la Game Boy,
non.
Oui.
Non.
Quel est l'âge limite pour vous, pour la Game Boy ou pour les jeux? Jusqu'à quel âge c'est
tolérable? J'ai jamais joué de ma vie. C'est pas mon truc, donc je n'aime pas du tout ça. Donc non, a priori, pas d'âge. Je dirais que ça n'existe pas.
Marina, je vais vous laisser. On a déjà passé le capsule de bain, là?
Ah oui, oui. Bah oui, vu que mes enfants... Étant eux-mêmes en retard, je ne peux pas l'être trop pour eux.
Savon solide, savon liquide?
Liquide.
Éponge, brosse, main?
un truc égyptien, là, loufa.
Je vais le noter, je vais me renseigner là-dessus. Loufa, savon liquide, brossage, douche, serviette, peignoir?
Pas brossage de cheveux, jamais, Edouard. Ne jamais se brosser les cheveux. La matière du cheveu brossé me dégoûte.
D'accord.
Un peu mousseux comme ça, jamais.
Beaucoup de dégoût, beaucoup de désir. Je vois une femme qui est déjà très en éveil dès le matin.
Ce matin, oui.
C'est une question, Marie-Claire, Marie-France.
Je savais que je vous avais au téléphone, Edouard, et ça fait bien 30 ans que vous me réveillez. C'est une image.
Est-ce que vous pensez qu'en chacun de nous, il y a une journaliste de magazine féminin qui sommeille?
Ah ouais. En tout cas, en moins, il y en a plusieurs, ouais. Il y a toutes les rubriques. Il y a rubrique mode, rubrique home, rubrique secret de beauté, secret anti-fatigue, ouais, ouais. Elles sont toutes là, ouais.
Donnez-nous un conseil de matin d'hiver.
Écoutez Édouard Baird.
Mais un conseil beauté, un conseil santé pour nous, les femmes.
la chirurgie esthétique.
Tous les matins, faire tirer une partie du visage. Merci Marina, vous allez aller dehors là?
Ben là, j'accompagne mon fils à l'école, ouais.
D'accord. En lui tenant la main?
Oh, j'adorerais, mais c'est fini.
Il veut pas?
Non.
Ouais. Ben est-ce qu'il vous demande d'arrêter au coin de la rue? Vous avez le droit d'aller jusqu'à l'école?
J'ai le droit d'aller jusqu'à l'école, mais parfois il me dit arrête de me regarder.
Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Je crois que dès l'année prochaine, ça sera le coin de rue. Et puis bon.
Oui.
Parce que vous voulez, ils grandissent.
Oui. Bah oui.
Je vous embrasse très fort, Marina.
Moi aussi, je vous embrasse, Edouard. À très vite.
C'était chouette de vous entendre. Merci.
Oh, je vous aime énormément.
On vous connaît mieux et c'est bien.
Au revoir. Merci. Bonne journée, Edouard.
Bonne journée, Marina. Radio Nova. Ça m'a énormément érotisé ce coup de fil. Je vais marcher dans le studio pendant le journal de Thierry Paré.
Va te peigner, oui, plutôt. 50 jours pour jour après le discours du Bourget, les électeurs socialistes ou proches du PS ont présenté l'addition à Manuel Valls hier. L'ancien Premier ministre n'est arrivé qu'en deuxième position à la primaire avec 31% des voix. Il est nettement distancé par Benoît Hamon, 36%. Benoît Hamon qui part avec un double avantage pour le second tour dimanche. D'abord son score supérieur donc aux autres, et notamment à celui de Manuel Valls, et surtout le soutien d'Arnaud Montebourg avec 18% des suffrages. Arnaud Montebourg est arrivé en troisième position. Il a d'ores et déjà appelé à voter Benoît Hamon. Vincent Peillon, qui lui est arrivé en quatrième position avec près de 7%, n'a donné aucune consigne de vote. L'écologiste François Durugy est arrivé, lui, cinquième avec 4% des suffrages. Il fera connaître sa décision dans la journée. Sixième avec 2%, Sylvia Pinel appelle à voter Manuel Valls. Elle est la seule. Tandis que Jean-Luc Benamias, qui lui est arrivé bon dernier avec 1% des voix, n'a toujours pas donné de consigne de vote. À noter une participation, on va qualifier de faible. On ne connaît pas le chiffre définitif d'ailleurs, mais à 1h du matin, elle s'établissait, cette participation, aux alentours de 1,2 million de votants. C'est donc nettement inférieur à la primaire de 2011 où 2,7 millions d'électeurs s'étaient rendus aux urnes. Le débat entre les deux tours, entre Benoît Hamon et Emmanuel Valls, aura lieu mercredi soir. Plusieurs milliers d'opposants à l'avortement ont défilé à Paris hier, entre la place d'Enfer Rochereau et les Invalides. Parmi les manifestants, Philippe de Villiers. Le nombre d'IVG en France est d'un peu plus de 200 000 par an. Le taux de recours est quasiment stable depuis 2006. Les émissaires du président Bachar al-Assad et les rebelles syriens vont se rencontrer et discuter aujourd'hui à Astana, capitale du Kazakhstan. Il s'agit du premier round de négociations directes depuis le début de la guerre en Syrie. Les discussions, elles devraient se concentrer sur la consolidation du fragile cessez-le-feu signé le 30 décembre. Et ces négociations d'Astana doivent aussi préparer les prochaines discussions de paix sous l'égide de l'ONU, cette fois à Genève, le 8 février, donc bientôt. Pour son premier entretien officiel avec un dirigeant étranger depuis son investiture, Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. En marge de cet entretien téléphonique, les autorités israéliennes ont donné leur feu vert à la construction de 566 logements dans trois quartiers de Jérusalem-Est. Un important épisode de pollution aux particules fines sévit depuis hier dans plusieurs régions, notamment l'Île-de-France. Résultat, la circulation différenciée, et non plus alternée, différenciée, est mise en place ce lundi à Paris, selon la classification des vignettes critères. C'est une première pour cette nouvelle vignette. Tous les véhicules disposant des vignettes de classe 1 à 4 pourront circuler. Les autres devront trouver une autre solution pour se déplacer sous peine d'une amende de 22 €. Attention, les transports ne sont pas gratuits, contrairement à ce qui avait été fait lors des derniers pics de pollution. Et puis à Lyon, c'est plus compliqué. La vignette critère n'est toujours pas obligatoire. La préfecture a mis en place un double système de circulation à la fois alterné et différencié. Si vous êtes concerné, je vous laisse prendre connaissance de ce système un poil confus, si je peux me permettre quand même.
Oui, c'est vrai, vous ne nous avez pas éclairci énormément. Oui. Moi, j'attendais de...
Je voulais partir à Lyon, j'y vais pas à cause de ça. Non, mais c'est vrai, je me censure moi-même, parce que j'ai pas la vignette.
À cause de ça, à cause de la pollution, à cause de moi?
À cause de deux.
Ouais. Le gouvernement de la Polynésie française a placé cette collectivité d'outre-mer en état de calamité naturelle après les fortes pluies subies par Tahiti et Moorea ce week-end. Des centaines de maisons ont été inondées, plusieurs ponts détruits ou endommagés. De nombreuses routes sont impraticables à l'heure qu'il est à cause de ces pluies très violentes. La fin de la 21e journée de Ligue 1 de football hier soir. Lyon à domicile a battu Marseille 3-1. Au classement, Monaco est en tête, 48 points. Nice est deuxième, 46 points. Le PSG est troisième, 45 points. Lyon est quatrième, 37 points. La CAN, suite... Oui, pardon, la Cannes. Non, non, il n'y a pas de souci. La Cannes suite, une suite sans le pays organisateur, le Gabon, éliminé. Le Gabon est troisième du groupe A. Or, seuls les deux premiers sont qualifiés, en l'occurrence le Burkina Faso et la Guinée-Bissau, qui sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Ce week-end, le Burkina a battu la Guinée 2-0. Et puis, on connaît l'intégralité des quarts de finale du mondial de handball. L'un des tableaux opposera la Suède à la France, le Qatar à la Slovénie. Dans l'autre tableau, l'Espagne sera opposée à la Croatie. Et puis, la Hongrie jouera la Norvège. La Hongrie qui a créé la grosse sensation ce week-end en sortant le Danemark, les champions olympiques.
Merci Thierry Paret. Un supporter lyonnais, Christophe Méné, vous êtes content ?
Je suis très content, j'ai vu le match et Lyon a magnifiquement bien joué et ils ont écrasé Marseille.
Vous l'avez regardé chez vous à la télé ?
Oui.
Seul ?
Seul, oui, parce que...
Votre femme n'est pas intéressée ?
Non, pas du tout.
Vous vous mettez en tenue de l'OL quand vous êtes devant votre télé ou pas ?
Franchement, honnêtement, ça m'arrive.
C'est vrai ?
Oui, oui.
Et même chante l'hymne en plus.
C'est vrai ?
Même
c'est
seul, ça
m'arrive.
Et tu
ouvres des packs de bière, tu fais la totale ou
non,
pas ?
Non, je bois pas de bière. Non, au contraire, je suis très concentré et voilà, je regarde.
Et quand il y a un but de Lyon,
des chips quand même.
Tu fais quel son ?
Je hurle.
Qui ne saute pas, qui ne saute pas.
Il faut essayer de leur... Ouah ! Comme ça.
Et là, votre femme dit quoi ?
Elle lui hurle. Arrête, arrête. Ouais. S'il te plaît, Christophe, arrête.
Et votre carrière de mannequin en est où ?
C'est foutu.
C'est au point mort.
C'est foutu.
Je suis dans la rue.
7h-9h plus près de toi. Plus près de toi.
7h-9h. Édouard Baird.
Oh mon Dieu, il me caresse l'oreille, ce con.
Alors, attention. Tiens, Rosa, mets ton casque et écoute parce qu'on est dans la rue là, avec Jack qui est à Roissy.
Munir et Kadir. Alors, moi, je suis passé côté arrivée parce que c'est quand même un bel endroit. Il se passe des choses. Il y a des gens qui ont des petits papiers dans les mains, qui attendent des gens qu'ils connaissent pas. Il y a des gens qui s'enlacent. Il y a des gens qui pleurent. Là, je suis avec Munir et Kadir qui se rejoignent d'un voyage, je sais pas d'où.
Thaïlande, Bangkok.
Vous êtes venu la récupérer ?
Oui, tout à fait. Elle est venue de retour d'un voyage de 10 jours. Elle vient à la réalité de la vie. C'est plus la même chose. Nous, ici, on a froid. Elle est toute bronzée. Donc, ça fait plaisir de la retrouver, toute bronzée comme ça, bien reposée. J'espère qu'elle sera en forme pour retrouver le travail.
Je ne vous ai pas vu, vous l'avez enlacé, vous lui avez fait un bisou.
Oui, on s'est embrassé. C'est des moments quand même très chaleureux.
C'est chouette.
Chouette.
Et dites-moi, donc la réalité est froide et le rêve est chaud, mais si on reste trop longtemps au chaud, si on passait toute notre vie en Thaïlande, par exemple, on serait content d'aller au froid, vous pensez ?
Non, je pense que Paris nous manquerait énormément, la France nous manquerait. C'est quand même un plaisir d'être à Paris en France.
Oui, on n'est pas si mal.
C'est votre ami qui apporte les cafés. Les cafés, bonjour.
Bonjour.
C'est le frère et c'est votre belle-sœur,
ami de la famille.
Tout le monde est venu, quoi. Tout le monde est venu pour récupérer les deux qui arrivaient de Thaïlande.
Tout à fait, mais ils étaient partis avec beaucoup de monde.
Madame, la Thaïlande, c'est comment ?
Super.
Non, mieux que super.
Super.
Non, super deux fois. Alors, une image.
Magnifique, magnifique, magnifique.
C'était du business, c'était des...
C'était les deux en même temps, ouais.
Qu'est-ce que vous avez vendu ou acheté en Thaïlande ?
Elle nous laisse. Non, ils ont envie de partir, là.
Bah, je comprends, aller, là. Oui.
Parce que ça fait combien de temps que vous attendez, vous ?
Personne n'est pressé, on n'est pas si pressé que ça. Ils partent juste pour
rester avec moi.
Oui, mais eux, ils viennent d'arriver, donc ils partent pour fumer une cigarette, mais on n'est pas si pressé que ça. Ce que nous avons vendu, la richesse de la France, l'amour de la France, l'amour de Paris, et ce qu'on a apporté, espérons la chaleur de leur pays.
Ah oui, c'est bizarre ce que vous dites.
Pourquoi ?
Je sais pas, vous parlez de la chaleur de la France, tout ça. Ah, là-bas, en Thaïlande ?
Oui, bien sûr, ce que nous avons vendu en Thaïlande.
Jack, souvent, vous représentez les forces de l'anti-France ?
Non, pas du tout, mais j'étais impressionné. Je suis photographié, il y a plein de gens en portable qui nous prennent en photo.
Je vais vous envoyer Super Dupont.
Je ne sais pas si vous avez la chance de partir dans d'autres pays, et de retrouver la France, c'est toujours un grand plaisir.
Je vous remercie pour ce message du comité du tourisme français. En tout cas, bienvenue chez vous.
Oui, alors ça arrive tout le temps, là. Les gens sont... Il y a beaucoup d'afflux ici. Je crois que je vais rester un peu là parce que c'est un espace un peu dramatique. Et
le voyage, c'est eux.
Ah, d'accord.
Bébert.
Je fais connaissance avec tout le monde ici.
À tout de suite, Jacques.
À tout de suite.
Rosa, tu t'es aperçu tu as vu la magie de la radio. On était à Roissy, là.
Oui.
Tu es déjà allé à Roissy prendre l'avion ?
Oui.
Pour aller où ? Tu te rappelles ? Où t'étais parti ?
À
beaucoup d'endroits.
À plein d'endroits, t'as fait plein de voyages avec tes parents ou t'as déjà voyagé en UM, tu sais, les enfants seuls avec une pancarte avec leur nom sur le ventre?
Non.
Non? Eh bien, ça va t'arriver. Alors, on t'écoute, tu vas nous dire un poème aujourd'hui. Tiens, tu as droit à un petit jingle.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Alors Rosa, cette année on est sur du 9 ans. T'es contente d'avoir 9 ans ou pas?
Oui.
C'est ton âge préféré pour le moment?
Je sais pas trop.
T'es impatiente de grandir ou t'aimais bien quand t'étais petite? Ah, les questions bizarres du type du matin. Écoute, tu veux nous dire ton poème peut-être tout simplement?
Oui.
Il s'appelle comment?
Toujours et jamais.
Tu trouves que c'est agréable d'écouter ta voix dans le casque? Ça te fait bizarre, tu veux l'enlever?
Non, ça va.
Bon, très bien, elle est très agréable ta voix. Alors on t'écoute dans Toujours et Jamais.
Toujours et jamais. Toujours et jamais étaient toujours ensemble. Ne se quittaient jamais. On les rencontrait dans toutes les foires. On les voyait le soir traverser le village sur un tandem. Toujours guidés, jamais pédalés. C'est du moins ce qu'on supposait. Ils avaient tous les deux une jolie casquette. L'une était noire à carreaux blancs, l'autre blanche à carreaux noirs. À cela, on aurait pu le reconnaître, mais il passait toujours le soir et avec la vitesse. Certains, d'ailleurs, les soupçonnaient, non sans raison peut-être, d'échanger certains soirs leurs casquettes. Une autre particularité aurait dû les distinguer. L'un disait toujours bonjour, l'autre toujours bonsoir, mais on ne sut jamais si c'était toujours qu'il disait bonjour ou jamais qui disait bonsoir, car entre eux, ils s'appelaient toujours Monsieur Albert, Monsieur Octave, Paul Vincent Signy.
Eh bien, ça s'est très bien passé.
Hein? Oui.
Ça y est, t'avais un peu peur tout à l'heure.
Oui.
Tu sais que tu l'as très bien dit?
Oui, je sais pas, oui.
Eh bien, je te le dis.
Bravo.
Il regarde Atmen qui a fait le conservatoire, qui en a dit des poèmes, il en a eu des émotions.
J'en ai massacré des auteurs et là je t'entends, ça me donne du courage pour la suite. Et puis toujours et jamais, c'est le meilleur commentaire sur la politique. C'est à Montvals, toujours et jamais.
Je ne pensais pas qu'on en arrive
là. Si, on en arrive là.
Tu pars pour l'école là ou pas?
Oui.
Alors je t'accompagne. Restez à l'antenne.
Non, ne partez pas. Oh non, ne partez pas.
Bien, on y va.
Surtout ne prends pas froid. Bon,
on garde l'antenne.
On garde l'antenne et qui on voit?
On fait quoi?
Christophe et Atmen, gardez un petit peu l'antenne.
Oui, alors qui on voit après derrière?
Hein? Après, il y aura la revue de presse de Marie Misset.
Ah, la belle Marie Misset, qui a passé un très bon week-end. Elle est bien habillée ou pas, Marie Misset? On la voit pas.
Elle est toujours bien habillée, Marie
Misset. Tout en noir, jolies lunettes. Marie Misset, on retrouve Edouard alors.
C'est très mignon. Vous avez... Alors, on met un peu de musique avant Marie Misset. Je ne suis plus du tout. On parlait des nuits zébrées là à Bordeaux, Rudy, c'était bien?
Bah oui, c'était super bien. Et je disais que grâce à un pote de Tito qui s'appelle Kamel, on a pu retransmettre tout en direct sur Internet.
Pourquoi grâce à lui, il y a eu un problème technique?
On avait un problème technique, on comprenait absolument rien, on était à deux doigts de tout abandonner. Et puis ce mec est apparu, Kamel nous a dit vous inquiétez pas.
Oui. Kamel
combien de temps j'ai? On lui a dit une heure, il nous a dit en 15 minutes c'est réglé, il a tout hacké, il a hacké le système de la salle.
Et vous étiez directement au Patagone ensuite.
Tout à fait.
Oui, et après ils sont allés au petit Canelé, qui est une petite boîte un peu cracra dans le vieux.
Oui, on vous y a vu. Il y avait combien de personnes? Vous avez une arbre là-bas?
Oui, 1400 personnes, un truc comme ça. On a fini avec Violette qui nous a servi des entrecôtes délicieuses à 7h du matin.
Et c'était quoi le groupe qui a le plus cartonné?
Jupiter et Oquest International qu'on avait reçu au tout début de l'année, tout à fait. Général Jupiter.
Très bien. Allez prendre deux Doliprane et puis maintenant, gloire. À Marie Misset, simplement.
Ah oui. Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour. Aujourd'hui, dans la revue de presse, on lutte contre la nature, on lutte contre le temps, on se bat contre la mort, on pourfend les ténèbres, au moins ou presque. C'est une tendance assez générale, hein, de toute façon.
La mort.
Parfaitement humaine de vouloir lutter à la fois contre la nature et le temps, qui vont souvent main dans la main. Le temps, laissant souvent à la nature la liberté de s'exprimer pleinement, que ce soit sur nos visages ou sur nos infrastructures autoroutières. Dans le supplément Époque du Monde, on s'intéresse au Top Body Challenge, comment devenir une meilleure version de soi en 21 jours, ou l'édification d'un corps œuvre perfectible à l'infini, nous dit-on, avec des exercices pour transpirer et se durcir les abdominaux. Il y a eu un nombre incroyable de challenges qui ont été construits sur le même modèle. 21 jours pour déployer son bonheur, 28 jours pour faire le ménage chez soi et en soi, 21 jours pour ne plus jamais être fatigué, éduquer ses enfants dans la joie, en 30 jours dans la joie. Que deviennent vos enfants et votre joie le 31e jour? L'article ne le dit pas. L'étrangeté du procédé, c'est de vouloir se changer, changer de vie, de corps, d'hygiène dentaire, en 28 jours pile, en 21 jours pile. Une femme témoigne quand même, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des challenges à répétition et puis elle garde que le meilleur. Par exemple, elle trouve que faire des bains de bouche de 20 minutes tous les jours à l'huile de sésame, le Oil Pulling Challenge, c'est comme ça que ça s'appelle,
ah oui.
C'est un peu contraignant. Elle a arrêté.
Le Oil
Pulling Challenge.
Vous ne faites pas le mec au courant, mais vous n'étiez pas au courant.
Si, mais j'écoute. Non, mais j'écoute quand même.
Merci, Atmen.
Changer de vie, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis.
L'autre idée un peu danger derrière, c'est que derrière cette forme de stakhanovisme vis-à-vis de notre corps ou de notre aptitude au bonheur, finit par se transmettre l'idée que quand on échoue, quand on préfère les bains de bouche au beurre de cacahuète, eh bien on est responsable, voire presque même coupable, quand la maladie survient ou la mort précoce. Dans le même ordre d'idées appliquées au bâtiment, pourquoi pas, La Croix nous raconte l'histoire du village de Talmont-sur-Gironde, en Charente-Maritime, 107 habitants, et qui, coûte que coûte, se bat contre l'érosion. Le temps, encore une fois, qui dévore ce très beau et très visité village. Une érosion qui se fout pas mal des efforts déployés par les humains pour enrayer la destruction du village, puisqu'elle a mangé toutes les dalles de ciment installées après la tempête de 99. Des dalles de ciment qui ont quand même coûté la bagatelle de 1,5 million d'euros. Le ciment, je cite, est tombé par plaques sous les coups de la houle. Le maire aimerait bien faire autrement cette fois pour sauver son village d'une lente et douloureuse disparition. La solution peut-être serait de construire avec cette érosion et pas contre elle, dans un combat qui semble un peu perdu d'avance contre un océan peu regardant. Et c'est...
Ah, vous donnez votre opinion, d'accord. Vous lui
oui.
dites ce qu'il faut faire au
je
maire
dis,
de
monsieur le maire de Talmont, bah, peut-être vous devriez faire ça. C'est cette image de la nature un peu indifférente qui s'empare de la civilisation que nous avons construite dans un désir vain de contrôle. Là, c'est pas mon avis. C'est une citation de la revue Relief qui apparaît en large dans un portfolio publié dans le dernier numéro donc de la revue Relief, que vous pouvez regarder, Edouard, comme ça vous pouvez commenter
Merci.
En même temps si vous voulez.
Non, je
le portfolio
bon.
Est d'Hélène Schmitt. On y voit notamment les anciens bureaux d'une mine de diamants totalement ensemblés, ensablés en Namibie, ou les ravages de la plante japonaise Kudzu, introduite par le Japon aux États-Unis en cadeau en 1876. D'abord admirée pour sa vivacité, l'admiration s'est ensuite mue en horreur, je cite, lorsque la plante s'est propagée à travers tout le sud-est des États-Unis, dévorant sur son passage la civilisation dans une étreinte quasiment assassine. Sur les photos, on ne voit plus les maisons, on dirait qu'elles ont été étouffées. Un portfolio donc à retrouver dans la revue Relief. Certains architectes, du coup, certains humains aussi, ont donc décidé, malgré le charme un peu post-apocalyptique de ces ruines, de ne pas jouer contre le temps, donc, mais avec lui. C'est le cas de l'architecte de Beaubourg, Renzo Piano, dans une interview au Monde à l'occasion des 40 ans du Musée d'art contemporain, qui avait fait grincer des dents, mais qui fait aujourd'hui l'unanimité. Renzo Piano raconte que l'ambition avec Beaubourg, c'était de fabriquer une machine urbaine capable donc de se transformer avec le temps, de l'épouser. Notre métier, dit-il, d'architecte, c'est de construire les changements de ce monde et donc de ne rien figer. Quand on lui demande s'il lui a fallu beaucoup de courage, il répond que c'est son entêtement qui a gagné et que l'entêtement a quelque chose de sublime. Il ajoute, c'est vrai qu'on comprend un peu moins le courage de ceux qui ont porté le projet. En tout cas, Beaubourg porte bien ses 40 ans et sans doute que même la rouille lui ira bien.
Merci Marie Missé, c'est très brillant cette idée d'être l'allié du temps, de ne pas faire de barrage contre le Pacifique. Est-ce que vous-même vous accueillez le temps qui passe comme un cadeau de la nature ou simplement comme une nécessité avec laquelle il
Pour l'instant il faut oui, faire. Mais c'est facile.
Parce que vous êtes jeune et belle.
Parce que je ne suis pas encore trop vieux.
Quand tu seras... quand tu auras
trop
mon
vieux.
Âge. Moi ma chance
c'est
d'être
pas promettre.
Sourd.
Ouais.
Très bien, vous verrez. Vous verrez un jour. Avec le temps va. Tout ça
va. Va.
On oublie le visage, on oublie la voix. Le cœur. Quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire. Et c'est très bien.
Avec le temps.
7h-9h, plus près de toi. 7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Zip, zip, zip.
passer Michou à Radio Nova, c'est un défi, c'est un pari. Pari gagnant pour le moment. De partout, les auditeurs Nova s'appellent. Ce tweet, ce mail, ce LinkedIn se joignent. Comme la sélection est de qualité ce matin. Entrez dans la playlist de Nova, le désir de beaucoup de nouveaux groupes. Être programmé sur la radio du bon goût et de la nouveauté, c'est une envie, c'est un espoir. Chanson de qualité, musique exigeante, choix audacieux, la playlist de Radio Nova.
Ok. Point petit déjeuner, Marie, Eugénie, Laurent David.
Non, on peut revenir sur la chanson qu'on vient d'entendre. Zip, 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 ça veut dire quoi en fait?
Oui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut?
Il faut pas prendre le message.
Il y a un message
caché. Non, je crois que c'est un son simplement.
Sur la fermeture éclair.
Moi, je pense qu'il y a un sens.
Venez, c'est quoi les petits déjeuners là? On est sur quoi ce matin? Vous avez
un petit croissant au beurre?
On a du croissant, ouais, du gros croissant.
Les gens n'ont pas de croissant chez eux, à votre avis? Qu'est-ce qui
est? Des chocs à pic.
Des chocs à pic. Vous êtes chocs à pic, Tito?
Non, 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 moi je suis confiture de fraise.
Du muesli avec du lait, ouais.
Il n'y a plus de gens comme avant dans le sud-ouest, un peu gaillard, qui se faisait une omelette avec du jambon noir de Bigorre.
Si, ça c'est pour 10 heures avec Atmen, on va toujours reprendre le petit casse-croûte après. Ouais. Mais ça c'est pour 10 heures.
Un petit coup de blanc avec un boudin, ouais, avec un petit boudin
aux œufs. Le camembert dans le café aussi.
Quels sont les métiers qui continuent à taquer à 6-7 heures au coup de blanc ou à des alcools un peu forts, Laurent David, Samana?
C'est une bonne question.
Non, moi je voulais.
Si, les routiers, les routiers,
les auteurs. Questions,
les routiers, les routiers.
Non, non,
les
écrivains, les routiers ne peuvent
tous
pas.
Tous les gens qui travaillent la nuit.
Non, les métiers de la radio.
Arrangisme, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes horaires que nous. C'est pour ça, moi je parle. Oui, je ne sais pas. J'ai envie de dire Thierry Paret, c'est l'heure du journal. Voilà où j'en suis.
Radio Nova.
5 ans, jour pour jour, après le discours du Bourget, les électeurs socialistes ou proches du PS ont présenté l'addition à Manuel Valls. Hier, l'ancien Premier ministre n'est arrivé qu'en deuxième position à la primaire, avec 31% des voix. Il est nettement distancé par Benoît Hamon, 36%. Benoît Hamon qui part avec un double avantage pour ce second tour de dimanche. Son score d'abord, supérieur aux autres bien sûr. Et puis le soutien d'Arnaud Montebourg, surtout avec 18% des suffrages. Arnaud Montebourg est arrivé en troisième position. Il a d'ores et déjà appelé à voter pour Benoît Hamon. Vincent Peillon, lui, est arrivé en quatrième position. Avec près de 7%, il n'a pas donné de consigne de vote. L'écologiste François de Rugy, qui est arrivé 5e avec 4% des suffrages, fera connaître sa décision dans la journée. Il espère rencontrer à la fois Benoît Hamon et Manuel Valls avant de se décider.
Le suspense est insoutenable.
L'écologiste François de Rugy, j'en ai parlé. 6e avec 2%, Sylvia Pinel appelle à voter elle, Manuel Valls. Elle est la seule. Tandis que Jean-Luc Benamias, lui...
Ne s'est pas réveillé.
Tandis que Jean-Luc Benamias ne s'est pas réveillé. Là, il est arrivé en dernière position avec 1% des voix. Il se prononcera mercredi. Il veut réunir son équipe avant de décider pour qui il va donner ses voix. Voilà, on ne connaît pas le chiffre définitif.
Ce n'est pas comme ça la démocratie. On ne donne pas ses voix.
C'est vrai, t'as raison.
On conseille ceux qui ont voté pour vous plutôt de voter.
On soutient. On soutient.
Propriétaire de.
La participation a été faible. 1,3%. C'était à 1h du matin. Donc, on peut imaginer que ça avait bougé, mais pas énormément non plus. C'est bien en deçà des 2,6 millions d'électeurs qui s'étaient rendus aux urnes en 2011. Le débat d'entre les deux tours, entre Benoît Hamon et Manuel Valls, aura lieu mercredi soir. Plusieurs milliers d'opposants à l'avortement ont défilé à Paris hier, entre la place d'Enfer Rochereau et les Invalides. Parmi les manifestants, Philippe de Villiers. Le nombre d'IVG en France est d'un peu plus de 200 000 par an. Le taux de recours est quasiment stable depuis 2006. Un épisode de pollution important aux particules fines sévit depuis hier dans plusieurs régions, notamment l'Île-de-France. Résultat, eh bien, la circulation différenciée est mise en place ce lundi à Paris selon la classification des vignettes critères. C'est une première pour cette nouvelle vignette. Tous les véhicules disposant des vignettes de classe 1 à 4 pourront circuler. Les autres devront trouver une autre solution pour se déplacer sous peine d'une amende de 22 euros. Attention, contrairement à ce qui s'est fait lors des derniers pics de pollution, les transports publics ne seront pas gratuits. À Lyon, où la vignette critère n'est pas encore obligatoire, la préfecture a mis en place un double système de circulation à la fois alterné et différencié qui semble assez compliqué.
Christophe Méné, vous êtes motorisé vous-même ?
Oui, j'ai une voiture.
Et là, vous savez votre numéro final ? Par quoi ça se termine ?
Non, pas du tout.
C'est ça, donc vous êtes...
Donc je roule.
c'est ça.
Plus pour 22 euros, franchement.
Bah, t'es pas. T'es
non.
Pas,
ouais, t'es pas en plus, on n'est pas sûr de se faire pincer. Donc.
Ouais, ouais, ouais.
Non, c'est mon conseil, roulez.
C'était un témoignage.
Ouais.
Après, c'est dommage que tu sois ivre en même temps. Parce que c'est...
De toute façon, il n'a pas son permis, donc ça n'a aucune
importance. Oui, de toute façon.
Il est en marche arrière.
Ouais, c'est ça, c'est pas. Ouais. Le gouvernement de la Polynésie française a placé.
C'est quand on
cette...
est ambulancier, c'est normal, on ne peut pas. Pardon, excusez-moi. Vas-y, excusez-moi, Thierry.
Le gouvernement de la Polynésie française a placé cette collectivité d'outre-mer en état de calamité naturelle. Après les fortes pluies subies par Tahiti et Moorea ce week-end, des centaines de maisons ont été inondées, plusieurs ponts détruits ou endommagés et de nombreuses routes sont évidemment impraticables. Les émissaires du président Bachar al-Assad et les rebelles syriens vont se rencontrer et discuter aujourd'hui à Astana, capitale du Kazakhstan. Il s'agit du premier round de négociations directes depuis le début de la guerre en Syrie. Les discussions devraient se concentrer sur la consolidation du fragile cessez-le-feu signé le 30 décembre et ces négociations d'Astana doivent aussi préparer les prochaines discussions de paix sous l'égide de l'ONU. Ce sera à Genève le 8 février. Pour son premier entretien officiel avec un dirigeant étranger depuis son investiture, Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien. La Gambie a enfin tourné la page Yahya Jammeh, celui qui a régné sans partage pendant 22 ans sur le plus petit pays du continent africain et qui a refusé de reconnaître sa défaite lors de l'élection présidentielle du 1er décembre, est parti en exil en Guinée ce week-end. Vainqueur de la présidentielle, Adama Barrow, lui, va pouvoir donc enfin exercer son mandat.
Un pays très étrange puisqu'il est entièrement dans le Sénégal. C'est un pays enclavé dans le Sénégal. Donc les Sénégalais considèrent que c'est une région sénégalaise. Voilà ce que je leur dis. Bon. Je vous raconte ça comme ça.
Très bonne intervention.
C'est juste, c'est une info supplémentaire. Samsung a formellement imputé à un dysfonctionnement de sa batterie les problèmes du Galaxy Note 7, censé être son produit phare, hein, mais qui s'est soldé par un fiasco commercial historique. Alors le groupe a précisé avoir mobilisé 700 chercheurs et ingénieurs sur cette enquête et ils ont testé plus de 200 000 appareils et plus de 30 000 batteries. La fin hier soir de la 21e journée de Ligue 1 de football, Lyon à domicile a battu Marseille 3-1. Au classement, Monaco est en tête devant Nice, le PSG et Lyon. La CAN suite, une suite sans le pays organisateur, le Gabon éliminé. Le Gabon est troisième du groupe A. Or, ce sont les deux premiers seulement qui sont qualifiés, en l'occurrence le Burkina Faso et la Guinée-Bissau. Au programme aujourd'hui, le Zimbabwe contre la Tunisie et le Sénégal contre l'Algérie. On connaît l'intégralité des quarts de finale du mondial de handball. L'un des tableaux opposera la France à la Suède et le Qatar à la Slovénie. Dans l'autre tableau, l'Espagne sera opposée à la Croatie et la Hongrie jouera la Norvège. Et puis la finale du Super Bowl, le championnat de football américain, elle opposera cette finale New England à Atlanta. Ce sera le 5 février au Stadium de Houston devant 70 000 personnes, devant surtout plus de 100 millions de téléspectateurs, a priori.
C'est formidable de dire à l'avance combien de spectateurs il y aura. J'aimerais bien faire ça, dire là, allez voir mon film devant 2 millions de personnes. J'irai pas le voir, le match Qatar-Slovénie, je m'en fous complètement.
Ouais, celui de l'Algérie va être bien, moi, je pense.
On était sur le hand et là, on est sur le
Toute votre enfance, Oran, la banlieue d'Oran, votre enfance, cette mère.
Mais oui, ce petit bourricot que j'avais, je courais en babou, je mangeais une olive, j'étais heureux.
En fait, pas trop. Dites-moi, vous avez envie
oui,
de.
Oui, je suis
faire
sorti au théâtre, moi.
Ah, vous êtes, vous voulez parler, mais peut-être pas maintenant.
Pas maintenant, mais juste te dire qu'on va recevoir bientôt Léa.
On va parler maintenant. On va recevoir Léa Drucker parce que vous avez aimé sa pièce.
J'ai adoré sa pièce et surtout elle est magnifique. Depuis le dîner de con, j'avais pas autant ri. Voilà, avec elle.
Avec Grégory Gadebois.
Voilà, et Catherine Hegel, mais c'est magnifique. C'est la sortie théâtre du mois de janvier et de l'hiver.
Sur Paris.
Sur Paris.
Si vous êtes sur Paris.
Mais j'étais assis à côté d'un mec qui venait de Bordeaux et qui avait fait le voyage exprès.
Et vous étiez sur Paris.
Moi, j'étais sur Paris, mais Paris intramuros.
Vous montez à Paris, en intramuros. Il y a un peu de météo, mais douce, dites-vous ou pas ?
Non, douce, ça n'existe pas.
Ah bon, d'accord.
Alors aujourd'hui à Strasbourg, ce matin il faisait entre moins 7 et moins 1, à Brest entre 2 et 6, à Perpignan entre 5 et 8 et à Lille entre moins 5 et 3, et partout sur la France c'est sec et ensoleillé.
Le mec a déposé la Lailo Lailo à la SACEM grâce à Tito Itouche.
Oui, oui,
à mon
avis. Tout lui appartient, tout appartient à Tito. Tous les Lailo Lailo Laila et les Rakatakatak. Merci Tito.
Allez, allons-y, ma petite dame.
La belle Diloche.
Votre panier, votre cabas, votre portefeuille. L'ouverture des marchés.
Nous sommes à Lyon avec Marine. À Lyon se tient le CIRA, le rendez-vous mondial de la restauration à l'hôtellerie. Des gens du monde entier viennent par les restaurants, hôtels. Bonjour Marine.
Bonjour Edouard.
Quelle est l'atmosphère dans Lyon ? Quel type de personnages croise-t-on à l'occasion de ce CIRA ?
Ah ben là, on croise énormément de personnes différentes. Il y a énormément de monde. Nous, on a réussi à se faufiler dans une aile un peu à l'écart, donc on a réussi à rentrer tranquille. Mais sinon, c'est surblindé partout, sur les routes. C'était une catastrophe.
Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on achète là-bas?
On n'achète rien forcément sur place. On passe des commandes, essentiellement tout ce qui est autour de la restauration, l'hôtellerie. Donc il y a plein de stands, c'est immense.
Vous êtes spécialisée en épicerie fine. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon?
J'attends de rencontrer des producteurs d'épicerie fine pour mettre ça en magasin, en fait.
Quel type de produits, par exemple?
Oh, ben tout ce qui est chocolat, confiture, miel, plein de petites choses comme ça qui sortent de l'ordinaire, plein de produits haut de gamme et qui sont faits dans les règles de l'art. Donc on trouve tout. Hein.
Sont des producteurs indépendants, par exemple? Ça ressemble à quoi, un mec qui fait du chocolat? Il arrive de quel pays? C'est comment?
Oh, ben il peut venir de n'importe où. Bon, moi là, je cherche pas forcément de chocolat parce que je travaille avec Pralu qui est à Rouen. D'ailleurs, j'ai pas vu s'il était exposant.
C'est quoi Pralu?
C'est un artisan chocolatier qui a des boutiques à Lyon, à Paris, un peu partout, et qui est excellent. C'est un artisan chocolatier. En fait, il va dans différents pays, il va chercher ses fèves de cacao, et il les ramène à Rouen, il les fait torréfier et il crée son chocolat.
Rouen, le Forez. Et le miel, alors, il y a des pays qui apportent du miel? C'est quoi les pays où on
produit le miel? Là, moi, je prends des producteurs de France avec des petits apiculteurs de la région de Montpellier, au possible.
Par exemple, où ça?
Là, je travaille avec un apiculteur de Cournon sec qui crée son miel naturel avec ses abeilles, ses ruches qui disposent à droite à gauche. Voilà, il n'y a pas de trafic.
Il s'inquiète.
C'est compliqué d'avoir du miel français. Ouais, il s'inquiète un peu.
Il y a de moins en moins d'abeilles ou pas finalement?
Il y a de moins en moins d'abeilles et puis c'est surtout qu'il y a beaucoup de trafic de ruches. Ils se font piquer leurs ruches, donc c'est un peu compliqué, ouais.
Ah, il y a des trafiquants de ruches.
Oui.
Ah oui, donc la nuit, il y a un mec qui prend ta ruche et il l'a très étonné.
C'est ça.
Alors, on vous laisse aller acheter du chocolat, du miel. Merci, Marine. Ça s'appelle Persil et Noisettes, votre magasin à Montpellier?
Oui, c'est ça, tout à fait, Persil et Noisettes.
Pourquoi pas chocolat et papillon?
Parce qu'il en fallait un, et c'était celui-là.
Très bien, c'est bon, ça me va comme réponse. Merci beaucoup. Qu'est-ce que me dit Eugénie? Me fait signe qu'on part maintenant à Roissy avec Jacques Souvent. Salut, bon
marché. Allez, voilà, on est là pour défendre le métier, tout simplement. Non, vous avez dit, il y a trop de racoleurs. Il y a trop de racoleurs, oui. Comment ça? Il y en a beaucoup. Dès que taxi clandestin, les racoleurs, les VTC, les Uber, ils sont tous là. Hein. Vous, là, vous êtes là avec votre petit gilet bleu, marqué taxi information, pourquoi? On est là pour informer les clients que la station de taxi, elle est à la porte 24, tout simplement.
Voilà.
D'accord. Dire quel moment?
Non, ça m'énerve aussi, moi.
Là, il y a plein de monde, on gagne 50 euros la course? Bah oui, 50 euros à Paris.
Roissy-Paris, c'est 50 euros tarif unique maintenant, oui.
C'est 50 euros tarif unique? Pardon? 50 euros tarif unique? Oui, c'est tarif unique, il y a rêve gauche, rêve droite, il y a 50-55. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, il y avait des gens qui m'ont donné une information sur le parking pas cher. On garde sa voiture pas trop loin, et puis c'est 3 ou 4 fois moins cher que les parkings.
Ça, je sais pas. Franchement, je peux pas vous informer, parce que moi, je suis taxi.
Oui,
je suis taxi informaté. On informe des clients, c'est tout simplement.
Donc, on parlait des gens qui viennent racoler les taxis. Comment ça se passe? Ils ont des imperméables? Ils ont des mains qui traînent? C'est comment un type qui vient racoler le client?
Ils disent, voilà, il y a Uber, ou
d'autres prénoms.
Clandestins, ouais. Voilà. Des clandestins qui racolent les gens, disent voilà, taxi, c'est pas des taxis.
C'est des gens qui ont des voitures ou pas forcément? Parfois, c'est quelqu'un qui n'a même pas de voiture et qui vous emmène dans le RER, le métro ou en stop.
Non, c'est des gens qui ont des voitures quand même. C'est des voitures, ils ont des taxis, tout simplement.
Et là, vous êtes là, vous intervenez donc d'une voix.
Non, on n'intervient pas, on informe les clients.
D'accord.
Que le vrai taxi, ils sont à la porte 24.
Mais quand vous êtes face à un racoleur outrageusement maquillé avec des manières un peu exagérées, comment vous intervenez-vous face au racoleur?
On informe des clients. Nous, on n'intervient pas pour le racou. On informe des clients. C'est pas un vrai taxi, c'est pas des taxis. Les taxis sont à la porte 24.
Bon, la porte 24 et non pas la 22 ou la 26, par exemple.
Non.
Si je prends un taxi à la porte 37, c'est pas un taxi.
C'est pas un taxi.
C'est un racoleur.
Le taxi, ouais. C'est à la porte 24.
C'est 24, hein, merde.
Le taxi, il a raison, monsieur. Le taxi, c'est à la porte 24.
La porte 24.
Exactement, c'est le taxi à la porte 24, tout simplement.
Et pas la 20...
taxi.
Et à la 25, non. Alors
La 25, il n'y a pas de 25.
On te le dit, c'est la porte 24.
C'est la 23.
Non.
Non, c'est un pair, 24, 32, 34.
Et vous, et les taxis, c'est
la station de taxi, la sortie des taxis, c'est à la porte 24.
Voilà. Simplement. Merci, voilà. Cher monsieur, pour cette information.
Merci beaucoup.
À la porte 24. Non, mais plus doux. Attaquez plus doux, Tito. Attaquez plus doux. Oui, plus à la porte 24. Tu trouves des taxis.
À la porte 24.
À la 28, tu en trouves aussi. Non, non, on le tient pas. On le tient pas, faut pas le forcer. À
mais,
tout
mais les taxis sont à la porte 24.
24.
7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Je finis de noter les marques citées pendant la pub pour penser à acheter des choses pour faire marcher la consommation en France. Bonjour Zineb Rieff.
Bonjour.
Bonjour Thomas Baumgartner.
Bonjour Edouard Baird.
Nous avons de la chance d'avoir Zineb Rieff aujourd'hui.
Absolument.
Avec nous.
Nous avons en face de nous une enquêtrice au long cours qui travaille pour Les Jours, puisque Zineb Rieff, depuis septembre, depuis la rentrée scolaire, évidemment, vous suivez, vous êtes immergé, on peut dire ça, dans un lycée pour une série qui s'appelle Les années lycées, et vous livrez un épisode à peu près une fois par semaine. C'est le lycée professionnel Lafayette dans le hameau de Fontaineroux à Hérissy en Seine-et-Marne. Et en fait, l'idée, c'était quoi ? C'était d'aller rencontrer des gens qu'on entend peu, qu'on voit peu. C'est-à-dire que c'est d'aller voir des lycéens professionnels et aussi à la campagne.
C'est exactement l'idée. En fait, le projet est né après... Enfin, c'est Alice Géraud, donc, qui est cofondatrice et journaliste, qui a suivi une classe de 3e pendant un an l'année dernière. Et à la fin de l'année, il y a eu les orientations en lycée. Et elle s'est demandé, mais que deviennent tous ceux qui vont en lycée pro alors qu'ils n'ont pas envie d'y aller ? Qui sont ces jeunes ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils restent ? Est-ce qu'ils ne restent pas ? Et on s'est dit, ce serait chouette de continuer en suivant pendant un an une classe de seconde pro. Donc, ils sont en mécanique et c'est un lycée qui est à la campagne, qui est planté au milieu des champs. On est au milieu de nulle part. Il y a un car qui arrive le matin. Il y en a un qui repart le soir. Donc, ils sont là toute la journée. Ils sont dans c'est un très beau lycée, mais perdu. Et l'idée, c'est d'essayer de savoir ce que sont les lycées pro. Il y a près de 40% de lycéens qui sont inscrits en pro. Et personne ne sait... Voilà, on a trouvé qu'on en parlait peu. Mmh.
Donc à la fin de la troisième, en fait, si vous avez des mauvaises notes en général, quelqu'un vient vous voir et dit « je crois que ce qu'il te faut, c'est la mécanique ».
C'est exactement ça. Ou la pâtisserie, ou la vente, ou la gestion. Alors parfois, on essaye de demander à l'élève ce qu'il préfère, donc on peut s'arranger. Mais là, sur cette classe, le premier jour, je crois que la moitié des élèves nous ont dit « je ne sais pas très bien ce que je fais là ». Moi, je voulais être pâtissier, moi, je voulais être plombier, moi, je ne voulais pas aller en pro. Et donc, ils se retrouvent là à faire de la mécanique et dans 3 ans, certains vont travailler.
Qu'est-ce qui pousse les orientateurs ? C'est suivant les besoins de tel ou tel corps de métier ? On se dit, tiens, il nous manque des gens en mécanique.
Alors, ça pourrait arriver, mais le plus souvent, c'est qu'il faut mettre l'élève dans un lycée, pas trop loin de chez lui. Et selon les filières qui sont proposées, on va se retrouver en mécanique ou en commerce. Là, dans cette classe, il y a un élève qui voulait faire du commerce, mais c'était à Nemours, c'était trop loin de chez lui, donc il s'est retrouvé...
En seconde pro PCM, production et conception mécanique, c'est ça, ouais. C'est pour devenir technicien d'atelier pour l'automobile, l'aéronautique, par exemple. Et ce qu'on lit aussi, parce qu'effectivement, il y a ces questions d'orientation, mais ce qu'on lit aussi, c'est que, au long de votre série, spécialement dans tel ou tel épisode, c'est qu'il y a pas mal d'élèves qui sont heureux d'être là. C'est-à-dire qu'ils découvrent aussi une autre manière d'être au lycée et voire un petit peu libérés par rapport à une pression qu'ils vivaient avant.
Oui, il y a des élèves, il y a eu une réunion parents-prof début décembre et ça a été un moment assez émouvant pour tout le monde parce que les parents sont arrivés, ont découvert les notes de leurs enfants et pour la première fois depuis des années, on leur disait ça se passe bien en classe. Et ce qu'on comprenait, c'est que l'échec scolaire, en réalité, ça peut complètement casser une famille. Il y a une mère on a discuté avec la mère d'un des élèves qui nous disait « mais maintenant, on ne crie plus du tout à la maison, on joue à la belote ». Ça va mieux, puis il a l'air épanoui.
Mais la pression, c'est sur les parents aussi, c'est ce qu'on comprend.
Il y a une grosse pression sur les parents. Donc pour une partie des élèves, ça se passe très bien. C'est des élèves heureux et c'est très chouette de les voir de semaine en semaine grandir. Et pour certains, c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas envie d'être en mécanique, parce qu'ils ne croient plus du tout en l'école, ils n'ont pas envie d'être là. Et là, l'équipe pédagogique essaye de les sauver. Donc, pour certains, on va proposer des stages dans des domaines complètement différents. En fait, ils essayent de faire en sorte que chacun trouve quand même une place. Donc, ça, c'est assez intéressant. Enfin, ça ressemble pas du tout au lycée général. Donc,
Alors il y a une chose aussi quand on fait un travail comme ça, comme vous, en immersion, donc depuis le mois de septembre, vraiment un travail documentaire, c'est votre regard à vous et puis aussi des choses qui apparaissent petit à petit, pas forcément au premier regard et dont vous vous rendez compte. De quoi parlent les élèves en fait ? Quand on a comme ça 16 ans, vous décrivez un endroit un peu enclavé, à la campagne, des gens aussi qui sont heureux d'être là parfois, mais de quoi ils parlent ?
Voilà, ils parlent de sport, ils jouent au foot pendant la récré, ils parlent de plein de choses. Il y a aussi plein de choses qu'ils font qu'on ne peut pas raconter de semaine en semaine parce qu'il faut continuer à venir et qu'on ne peut pas non plus contrarier tout le monde. Ça aussi, c'est particulier pour un journaliste, c'est que nos lecteurs, sont nos sujets, on les revoit toutes les semaines. Donc il y a aussi... c'est
un lien qui se crée.
Il y a un lien qui se crée. Ce qui est chouette, c'est que c'est un travail qu'on fait à deux, avec Julie Balaguer, qui est photographe et qui a l'habitude de qui a travaillé avec des adolescents, qui a déjà fait des projets autour de l'adolescence. Et du coup, il y a un lien qui se crée aussi avec elle qui est assez marrant.
Comment vous mettez les gens à l'aise, les ados?
On essaye de faire partie des meubles. On était là le jour de la rentrée parce qu'on s'est dit que c'était un bon moyen aussi de faire vraiment partie de l'environnement du lycée qui découvrait ce jour-là. On essaye d'être les plus discrètes possibles. Alors, ça ne marche pas toujours. On a déjà eu deux élèves qui sont arrivés en classe et qui ont essayé de dire bah non, on était avec la photographe et la journaliste. Bon, voilà. Mais je crois qu'ils commencent à s'habituer à cette espèce de présence un peu bizarre. Je pense que les élèves nous oublient plus que les profs.
Par rapport à ce que vous disiez au début, à l'idée que vous pouviez en avoir, qu'est-ce qu'il y a de plus différent ? Qu'est-ce qui vous a frappé le plus ?
Ce qui m'a frappé le plus, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes contenus. Déjà, il y a une part hyper importante qui est consacrée à l'enseignement professionnel et que contrairement au lycée général où on allait en classe pour après, pour suivre des études plus longues, là, ils apprennent quand même un métier. Donc certains feront des études après, mais pour la plupart, enfin, on est là pour apprendre un métier. Et à 15-16 ans, moi, ça me surprend encore.
Très chouette série donc de Zineb Drieff et Julie Balaguer, Les années lycées, une obsession qu'on trouve sur lesjours.fr. Voilà.
Je vous remercie. Merci Zineb.
Merci.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité... extrêmement actuel.
Allô, allô ?
Oui, Edouard.
Je suis en train de marcher dans les couloirs de Nova, là. Est-ce que je suis à l'antenne ?
Vous êtes à l'antenne.
Chez Rudy ? Oui, je suis là. Est-ce qu'on m'entend ou pas ?
On vous entend
alors,
très bien.
Alors, Aurelio, hola, ¿qué tal, hombre ? Bienvenue, Aurelio, qui nous fait la gentillesse et l'honneur d'être là ce matin dans des conditions extrêmes de météo. Non, sous la verrière de Nova, alors que Aurelio ne vient pas du tout de contrées aussi inhospitalières climatiquement, cher Rudy.
Pas du tout, il vient de New York, il vient du Honduras, et il faut un peu raconter une histoire pour bien comprendre l'œuvre d'Aurelio. Alors cette histoire nous ramène à l'année 1635, année où deux navires espagnols négriers transportant donc des hommes depuis le continent africain destinés à être revendus en tant qu'esclaves, échoua proche des côtes de l'île de Saint-Vincent. Les rescapés africains du bateau se réfugièrent sur l'île et furent accueillis, intégrés et se mélangèrent aux Indiens des Caraïbes. Ils devinrent alors les Garifunas. Au fur et à mesure des années et des exils, les Garifunas s'établirent pour de bon sur l'île de Roatán au large du Honduras. Aurelio Martinez, ici présent avec nous ce matin, est le fils, l'héritier, le descendant de cette culture riche à l'identité rebelle marquée entre le continent africain et l'Amérique latine. Aurelio, depuis que son mentor, sa maman, lui a transmis le goût du chant, est en mission avec pour seul et unique but défendre la langue, transmettre l'héritage, la culture, l'histoire du peuple Garifuna. Alors il aura bien tenté de le faire via la voie démocratique, politique, en devenant il y a quelques années le premier député national noir au Parlement du Honduras, mais non. Aurelio est trop sincère, trop pur, trop humble pour la politique. Ça n'est donc plus qu'uniquement par la musique et sa voix qu'il a décidé de chanter l'histoire des Garifunas. En témoigne son nouvel album, le 4e rétrospective de 30 ans de carrière, intitulé Darandi, dont il va nous interpréter quelques morceaux. Le premier morceau est Yalifu, qui est donc dans la langue Garifuna, qui est de l'Arawak, qui est une image pour dire pélican. Enfin, c'est une image surtout pour parler de freedom, de liberté. Aurelio,
Aurelio, are you done with politics? No more politics? Est-ce qu'il arrête la politique?
Il revient
à la vie réelle. What did you find the most terrible thing in politics in Honduras? Quelle était la pire chose en politique pour lui?
So the politically, you know, Honduras is very difficult to do politics. You know, as
Honduras the power très is dur pour yes, politique. Yes,
we have some group in the parliament. It's powerful. So
il y a des groupes qui ont trop de puissance.
I'm talking about minorities. I'm talking about the sensitive society in our country. Because the Garifuna people is a minority, like indigenous, we have many kind indigenous in Honduras. We have nine indigenous community.
Il y a beaucoup de communautés indiennes, so, beaucoup de minorités.
I try to represent the
j'ai essayé de les représenter. Nobody represents them. No. Personne ne les représente. No. But now you're fed up, you're back to music.
Back to music, you know, because...
Après cette mauvaise expérience.
Music and politics no work together.
Non, ça marche pas ensemble. Merci beaucoup, la politique, la musique, n'y arrive pas. Merci Aurelio.
Aurelio, c'est à vous.
Merci Aurelio. Thomas, vous êtes prêt?
On est prêt. Yacine va chanter pareil dans un
avec Thomas et Yacine pour la suite. Merci, à demain. Vive les Trente Glorieuses. À tous.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.